Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, bon réveil à vous tous. On démarre ce vendredi ensemble. Voici le premier journal de cette matinale. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h sur Europe 1.
Si nous n'agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps. Et ma responsabilité,
ça pourrait dire
reconfinement.
La mise au point de Jean Castex sur les mesures sanitaires prises à Marseille. Le Premier ministre longuement interrogé sur France 2 hier. Le retour du télétravail voulu par le gouvernement, déjà en place et renforcé dans certaines entreprises. Et puis, que nous réserve le cinéma pour les mois à venir? Notre spécialiste Mathieu Charrier est au congrès de Deauville où l'on a présenté 265 bandes-annonces.
À suivre votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs. Ce matin, nous allons au Pays Basque chez notre fromager. Bienvenue à tous, il est 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le premier grand oral de Jean Castex, 3 mois après sa nomination comme Premier ministre, en plein regain épidémique. Il était hier soir sur le plateau de l'émission Vous avez la parole sur France 2. Et alors que, depuis mercredi soir, un début de fronde couve à Marseille du fait de la décision de fermer les bars et restaurants dès demain, Jean Castex a tenu sa ligne.
J'entends les réactions des Marseillais, mais je me suis expliqué. Quand il y a des mesures ainsi importantes, impopulaires, il vaut mieux que ce soit l'État responsable de la sécurité sanitaire en dernier ressort qui les assume. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de travailler avec eux, mais je pense qu'il aurait été, et vous voyez d'ailleurs leur réaction, très difficile pour eux d'assumer ces mesures nécessaires. Ils nous disent, oui, on a un petit tassement depuis 2 ou 3 jours des personnes atteintes par le virus à Marseille. En réalité, le critère le plus important, c'est les gens qui vont en réanimation. Ça monte. Et là, aujourd'hui, on commence à déprogrammer. Si nous n'agissons pas, on pourrait se retrouver dans une situation proche de celle qu'on a connue au printemps. Et ma responsabilité,
ça pourrait dire
reconfinement. Et ça veut dire qu'il faut l'éviter.
Jean Castex, hier soir sur France 2. Hier, les élus de Marseille demandaient un délai de 10 jours pour l'application de toutes nouvelles mesures sanitaires, ce que refuse catégoriquement le gouvernement. Mais la colère ne retombe pas.
Avec une manifestation prévue à 9h ce matin devant le tribunal de commerce de la ville. Nathalie Chevance, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Marseille. On attend pas mal de monde.
Et oui, car ici, le message du monde économique est le suivant. Toutes les aides du monde ne remplacent pas le travail. Un recours en référé liberté sera donc déposé dès ce matin pour empêcher la fermeture des bars et des restaurants vécus comme une catastrophe, avec le risque de voir des actes de résistance. Corinne Inesti, présidente de la CPME des Bouches-du-Rhône.
Certains risquent de dire « je ne fermerai pas ». Il y en a qui vont sans doute braver, bien sûr, l'interdiction, parce qu'ils ont un sentiment de ne pas être respectés. On veut nous tuer. Peut-être il vaut mieux une amende, mais je continue à travailler. Je peux essayer de me battre, de me défendre. Le chef d'entreprise, dans son ADN, c'est de résister.
Même son de cloche du côté des politiques qui affichent désormais l'union sacrée. Ne comptez pas sur la police municipale pour faire appliquer les nouvelles restrictions. Hervé Granier, maire de Gardanne, sent la colère monter.
Aujourd'hui, le peuple se révolte. C'est ce que je ressens au travers de mes concitoyens qui sont en fait très unis derrière leur commerce, derrière leur industrie, parce que nous avons eu des appels en mairie où des gens ont commencé à se poser des questions en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer demain ?» Le peuple gardanais est en colère aujourd'hui.
Et cet élu, comme des dizaines d'autres, avec leur écharpe tricolore, manifesteront tout à l'heure avec des patrons de bars, de restaurants qui viendront symboliquement déposer leur bilan.
Merci Nathalie Chevance. Autre précision donnée hier par le gouvernement, la nouvelle réduction de la jauge à Roland-Garros, 1000 spectateurs finalement. C'est 3% seulement du remplissage habituel.
Au niveau national, c'est un nouveau record qui a été donné hier. 16 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Et le taux de positivité des tests continue d'augmenter à 6,5% désormais.
Après les annonces d'Olivier Véran mercredi soir, et notamment la préconisation du télétravail, à nouveau, les entreprises ont-elles déjà réagi? On le sait, la pratique est devenue courante et pourrait même devenir plus massive dans certains secteurs. Aurélien Fleureau.
Après le retour au bureau début septembre, marche arrière, ou plutôt retour au fonctionnement post-confinement. À la mi-mai, en juin, le télétravail était majoritaire et le retour en présentiel très progressif. Et c'est ce format-là qui se profile à très court terme, observe Mathieu Séguran, président de la FEDA, la Fédération de la Distribution Automobile.
En septembre, nos entreprises ont fait savoir à leurs salariés qu'il fallait revenir. Sauf qu'aujourd'hui, la situation se dégrade fortement et on voit que le télétravail, d'abord, est poussé par le ministère de la Santé et les entreprises soucieuses du bien-être de leurs salariés et surtout de la santé de leurs salariés, réinstaure ce dispositif qui a fait ses preuves lors du confinement.
Beaucoup d'entreprises avaient de toute façon pérennisé le télétravail 2 à 3 jours par semaine, même début septembre. Pour elles, peu de changements à prévoir, au moins 1 jour de présence par semaine reste demandé, sans oublier que dans certains secteurs comme le marketing ou la communication, des salariés ne sont retournés au bureau que de manière très ponctuelle.
Il est 5h05 sur Europe 1. On en vient à ce nouveau système d'alerte qui existera bientôt pour avertir la population en cas de catastrophe. Annonce de Gérald Darmanin hier à Rouen, près d'un an après l'incendie de l'usine Lubrizol.
Lubrizol, son panache de fumée, ses odeurs nauséabondes pendant des semaines et les questions de la population sur la qualité de l'air. Face aux sinistrés, le ministre de l'Intérieur a donné quelques détails sur ce nouveau dispositif qui sera mis en œuvre l'été prochain dans les grandes villes, puis en zone rurale et en Outre-mer début 2022. Jean-Gabriel Bourgeois était pour Europe 1 avec Gérald Darmanin.
Au XXe siècle, on est passé du tocsin à la sirène. Et au XXIe siècle, on passera de la sirène donc au téléphone portable.
Un texto en cas de danger industriel ou naturel. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la France doit passer à la vitesse supérieure pour alerter la population.
Est-ce un feu ? Est-ce une inondation ? S'agit-il de fumée toxique ? Et que faire ? Est-ce qu'on doit rester chez soi ? Est-ce qu'on doit quitter sa maison ?
Ce sont de mini-messages prioritaires envoyés au même moment dans une zone ciblée, y compris quand le réseau est saturé. Le dispositif existe déjà dans d'autres pays, notamment pour les alertes climatiques, et la France a du retard. Un an après l'incendie de Lubrizol, les sinistrés sont dubitatifs. Simon de Carvalho préside un collectif de riverains.
Ça fait un an qu'on a subi la catastrophe, ça fait 10 ans qu'ils en parlent. Mais ils attendent quoi ? Vous vous rendez compte, s'il y a une catastrophe demain ici à Rouen, on va être encore victime du même problème, quoi. Il y a une angoisse permanente là-dessus.
50 millions d'euros ont été débloqués par le gouvernement pour mettre en place la diffusion cellulaire. Rouen, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Alors que nous sommes en plein procès des attentats de janvier 2015, vous avez sans doute encore en tête les images des policiers donnant l'assaut à l'hypercacher. En 2015, le RAID et la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, justement cette BRI, est aujourd'hui dans la tourmente. Son chef, au fort caractère, le commissaire Molmy, est très contesté en interne, au point qu'il devrait bientôt quitter ses fonctions. Le récit de Guillaume Biais.
C'est une figure de la police judiciaire. Chef de la BRI depuis plus de 6 ans, il a vécu les assauts de l'hypercacher et du Bataclan. Mais aujourd'hui, c'est une crise interne que le commissaire Molmy doit affronter. La défiance d'une partie de ses hommes et la pression de plusieurs syndicats qui réclament son départ tractent à l'appui. En cause, ses méthodes de management. Certains reprochent au patron de l'anti-gang, je cite, son égo démesuré. Plus de réunions avec ses chefs de groupe, plus de débriefing des interventions. Bref, une très mauvaise ambiance, un climat devenu intenable. Christophe Molmy, que nous avons joint, ne souhaite faire aucun commentaire, mais l'un de ses soutiens à la BRI souligne le contexte, l'incertitude depuis 2 ans autour de l'avenir de cette unité d'élite qui fait de moins en moins d'interventions et qui pourrait être rattachée au RAID. Entre rancœurs internes et conflits hiérarchiques, le sort du commissaire Molmy est scellé. D'après nos informations, il devrait prochainement quitter la BRI. Ni une sanction, ni une promotion, résume un policier, mais plutôt une sortie de crise.
Un cap sur Deauville, à présent, où se tenait hier une réunion cruciale, celle qui, chaque année, réunit le monde du cinéma, le congrès des éditeurs de films, une grande présentation de bandes-annonces et d'extraits de longs-métrages qui vont sortir dans les prochains mois.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Vous êtes sur place à Deauville, vous êtes l'un des rares journalistes à avoir eu le droit de suivre ce congrès. Ça fait des années que vous vous y rendez, on imagine que c'était une année très particulière.
Eh bien écoutez, déjà plus d'un siège sur deux du centre des congrès de Deauville était vide. Habituellement, c'est plein à craquer. Ensuite, on a vu cette année 265 bandes-annonces, c'était une centaine de plus l'année dernière. Et c'est très révélateur du fait que moins de films sortent et vont sortir en salle, notamment les blockbusters américains qui ne cessent de repousser leur date de sortie. Ce qui inquiète Marie-Madeleine et Guy, ils tiennent des cinémas au Puy-en-Velay et à Douvres-la-Délivrande.
On y croit, on espère que ça va repartir, c'est dur.
On espère que James Bond sera bien maintenu au 11 novembre. Il manque des films un petit peu d'action.
Et d'ailleurs, juste avant le début du congrès, on a appris que West Side Story version Spielberg était repoussé d'un an, Black Widow en mai et Meurtre sur le Nil de Disney à fin décembre. Disney qui cette année n'est même pas venu au congrès. Les exploitants de salles leur en veulent beaucoup d'avoir finalement sorti Mulan directement sur Disney+, sans être passé par leur salle.
Et donc Mathieu, sur ces 265 bandes annonces, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Alors du côté des étrangers, c'est vrai que le programme est très light, mis à part James Bond qui s'annonce à la hauteur, tout comme le nouveau Top Gun que l'on attend toujours. On a d'ailleurs revu les mêmes images que celles qui nous avaient été présentées l'an dernier. En revanche, du côté des Français, le programme est dingue. OSS 117, j'ai vu 3 teasers, le nouveau film en Afrique noire s'annonce à la hauteur. Ça sortira en février. Dingue aussi les premières images d'Eiffel sur l'histoire d'amour de Gustave Eiffel sur fond de construction du monument. Très séduisant aussi le nouveau film d'Albert Dupontel ou le discours adapté du roman à succès de Fab Caro. Et puis à Noël, place aux tuches numéro 4 qui se déroule justement pendant les fêtes de Noël. Et en exclusivité pour Europe 1, voici le chant officiel entonné par la famille Tuche et dévoilé hier à Deauville.
Oh, vive les frites, vive les frites, vive les frites d'hiver. Boule de gras et sauce qui pique et une suce pour grand-mère.
Ça promet.
On a toujours des frites hein, avec les tuches. Merci beaucoup Mathieu Charrier à Deauville pour Europe 1.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Il est 5h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Après le burger, on a les frites. Ça y est, on a fait le tour cette semaine.
Trop drôle.
À la une de votre journal des sports, le coup très dur pour Roland Garros.
1000 spectateurs par jour maximum au tournoi de tennis parisien qui démarre dimanche. Annonce hier soir du Premier ministre Jean Castex sur France 2. Jauge encore réduite pour la troisième fois en moins de 3 semaines. 15 000 spectateurs tout au long de la quinzaine parisienne. C'était 520 000 l'année dernière, manque à gagner considérable. Mais le tournoi se tiendra bien, c'est le point positif. Le tirage au sort du premier tour a eu lieu hier. Alors côté français, du lourd pour Caroline Garcia, Richard Gasquet ou encore Gilles Simon, opposés à des têtes de série. Mais l'affiche de ce premier tour, ce sera Stan Wawrinka, Andy Murray, le Suisse ancien vainqueur face au Britannique, ancien numéro 1 mondial. Ce dernier est tombé aujourd'hui à la 111e place mondiale. Murray aura toutefois ses arguments, prédit l'ancien champion français Cédric Pioli, le consultant européen.
Murray a beaucoup d'expérience. En premier tour, Murray va être frais physiquement. On a vu à l'US Open que sur un tour, deux tours, il peut être très dangereux, mais qu'effectivement, il n'a pas récupéré, je pense, toute sa capacité physique, ni le niveau qu'il avait lorsqu'il était dans les tout premiers mondiaux.
Le Covid qui touche durement Roland Garros, mais aussi l'ensemble du monde du sport professionnel et amateur.
Oui, les salles de sport vont de nouveau fermer dans les zones les plus touchées. Salles de fitness, foot à 5, gymnase. Après l'épreuve du confinement, certains acteurs pourraient bien ne pas s'en remettre. Le délégué général de l'Union Sport et Cycle, Virgile Caillé, qui regroupe les professionnels du sport, déplore vertement les décisions du gouvernement.
On va avoir des faillites, c'est sûr. Il y a 10 000 emplois menacés d'ici la fin de l'année. On ne peut pas accepter que le ministre de la Santé déclare que les salles de sport sont des lieux de propagation du virus. Ce n'est pas vrai. En tout cas, on n'en a pas la preuve. Ou plutôt, on a des chiffres qui laissent à penser qu'il n'y a quasiment aucun cas de virus constaté dans les salles ou alors de manière complètement dérisoire. Donc on est très en colère là-dessus.
Des propos recueillis par Jean-François Pérès.
Bernard Laporte, très ému mais combatif.
Quelques sanglots hier soir. Le président de la Fédération française de rugby animait une réunion publique près de Montpellier. Il est en campagne pour sa réélection, un scrutin début octobre. Et l'émotion au moment d'évoquer les plus de 30 heures de garde à vue mardi et mercredi. Le parquet national financier s'intéresse à sa relation avec l'homme d'affaires Moed Altrad sur le financement récent du rugby français. Dossier vide, affirme Laporte, tout comme Serge Simon, le numéro 2 de la fédération, qui était lui aussi en garde à vue.
Soulagé parce que ce qui nous est reproché, et après avoir évidemment apporté la contradiction et nos éléments, ne tient pas. Voilà. Et ça, je peux vous dire que ça change la vie, parce qu'on finit par douter de tout. On a du mal à imaginer que les choses s'arrêtent là. Si ça continue, et si on continue à nous reprocher des choses, on sait que ça ne tient pas.
Voilà, on sait que ça ne tient pas. Le parquet national financier doit maintenant décider s'il ouvre une information judiciaire ou s'il classe l'affaire. Le chiffre du jour. Deux petits tours de Coupe d'Europe de foot et déjà la sortie pour le Stade de Reims, éliminé hier soir au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. À Fehérvár, en Hongrie, défaite au tir au but. Autre résultat ce matin, le Bayern Munich bat le FC Séville 2-1 après prolongation et remporte la Super Coupe d'Europe.
C'est triste pour Reims, mais bon, c'était leur retour en Coupe d'Europe.
57 ans d'attente et c'est vrai que ça aura été court. Mais
ça aura fait long feu.
Mais bon, la prochaine fois, ils peuvent y retourner.
Il est 5h14.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les courses à présent. Votre pari gagnant, Thierry Léger, bonjour.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses ce soir en semi-nocturne sur l'hippodrome de Laval. Et mon pari gagnant sera le 707 Italiano Vero. Bien né, mais aussi très bien qualifié, ce poulain estimé à peine âgé de 2 ans va effectuer des débuts très attendus en compétition. Présenté par le maître-entraîneur Philippe Allaire, nul doute qu'il devrait pouvoir justifier les bruits favorables dont il fait l'objet et surtout répéter d'emblée en course ce qu'il réalise le matin à l'entraînement et ce, depuis plusieurs semaines. Notez bien, pour ce soir à Laval, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 7, Italiano Vero.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1.
Il est 5h15 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir notre pressing du matin, les histoires que nous avons repérées dans la presse aujourd'hui. Amblin, la vôtre est celle d'un rescapé.
Oui, un miraculé qui s'offre une nouvelle jeunesse. Il s'agit de l'orgue de Notre-Dame de Paris et c'est le titre du reportage photo de Paris Match cette semaine.
A tout de suite sur Europe 1, bon réveil.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h17 sur Europe 1. 16 000 nouvelles contaminations au coronavirus recensées ces dernières 24 heures. C'est le dernier chiffre publié hier soir et c'est un record. Chiffre qui la Santé publique France pointe aussi le taux de positivité des tests qui lui aussi atteint un record 6,5%. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, annonce vouloir déposer un référé liberté devant le tribunal administratif. Il conteste tout acte qui prendrait de nouvelles mesures sanitaires à Marseille. Et puis le mythique carnaval de Rio n'aura pas lieu l'année prochaine. Décision annoncée cette nuit en raison de la pandémie. Les écoles de samba n'auront ni le temps ni les ressources financières pour être prêtes en février, expliquent les organisateurs.
Europe 1.
Allez, nous ouvrons notre pressing du jour avec Amblin Roche et Paul Lassen. D'abord un coup d'œil aux unes des journaux et je vous livre d'abord celle de Libération. Le gros rouge qui fâche l'exécutif face aux émus locaux. En grande forme, Libé ce matin, qui raconte la colère à Marseille après les restrictions annoncées. La fronde, c'est le titre de la Provence à la une. 15 jours pour inverser la tendance. Point d'interrogation, question en guise d'espoir à la une du Parisien aujourd'hui en France. Nos vies sous cloche, avec là aussi un point d'interrogation, c'est le titre de la Croix. La France face à la deuxième vague, les échos. Le tour de vis de trop, se demande la dépêche du midi. Idem dans Ouest France, tour de vis contesté. Tandis qu'à l'autre bout de la France, l'Union à Reims adresse une sorte de satisfecit à l'université Reims, Champagne, Ardennes. Mention bien contre le virus. Très peu de cas sur le campus, les gestes barrières, les cours à distance, les fêtes interdites, tout cela a été respecté. Le dispositif sanitaire joue son rôle. Voilà au moins une bonne nouvelle ce matin. Voici maintenant les trois histoires qui ont attiré notre attention. On commence avec vous, Amblin, et donc vous nous emmenez en coulisses oui. d'un travail de restauration assez exceptionnel.
Oui, le reportage photo dans Paris Match sur cette restauration de l'orgue de Notre-Dame de Paris. Nous sommes un an et demi après l'incendie. L'instrument monumental de plus de 12 mètres de haut a échappé au pire et ce n'était pas la première fois menacé d'être transformé en petite cuillère pendant la Révolution française. Il se retrouve, il se retrouve presque les pieds dans l'eau pendant la crue de la Seine de 1910, suivi un an plus tard de la canicule qui lui décolle les sommiers. Le sommier, c'est le dispositif qui distribue l'air sous pression aux tuyaux. Il souffre de son succès, plus de monde pour le visiter, donc plus d'humidité, plus de poussière. Le 15 avril 2019, après les flammes, les tuyaux des pompiers déversent des tonnes d'eau et l'orgue de Notre-Dame s'en sort encore. C'est un miracle, il aurait même pu fonctionner juste après le drame.
Ah oui.
Mais il doit être, oui, décontaminé après avoir reçu des gouttelettes de plomb fondues de la flèche et de la toiture. Et puis certaines parties ont souffert quand même de la fournaise et des variations de température depuis. Les travaux de réfection ont démarré cet été. Il y en a pour 4 ans. Rendez-vous le 16 avril 2024. C'est daté, c'est précis, 16 avril 2024.
C'est la promesse.
Exactement.
Oui. Les fameux 5 ans.
On espère. Pour entendre résonner un tédéum, un hymne de fête dans la cathédrale. C'est Paris Match, donc cette semaine, qui prend des nouvelles de l'orgue de Notre-Dame de Paris.
Le miraculé, l'orgue de Notre-Dame, donc à lire dans Paris Match. Une autre image que vous avez forcément encore en tête, c'était il y a pile un an, le 26 septembre 2019, cet énorme panache de fumée au-dessus de la ville de Rouen, l'incendie de l'usine de produits chimiques Lubrizol et cette odeur nauséabonde qui avait envahi la ville. On ne connaît toujours pas aujourd'hui précisément les dégâts sur la santé des habitants. Un an après, le journal La Croix raconte la colère de ceux qui ont eu, entre guillemets, Lubrizol. Stella, par exemple, elle habite à 500 mètres. Elle raconte les maux de tête terribles, le scanner qu'elle a passé, les analyses sanguines qu'elle fait tous les trimestres pour s'assurer que tout va bien. Son chien, lui, est décédé intoxiqué. Et elle a bien remarqué que les oiseaux ont disparu, de même que les hérissons qu'elle croisait dans son jardin. Aujourd'hui, elle a plutôt envie de déménager. L'odeur revient encore un an après, régulièrement. Ça pue Lubrizol, voilà ce qu'on dit à Rouen. L'association des sinistrés, 25 000 membres sur Facebook, réclame toujours une contre-expertise sur l'impact sur l'environnement et sur la santé. Une nouvelle manifestation aura lieu demain à l'occasion de cet anniversaire. J'ai eu Lubrizol, voilà, c'est lui qui le dit, Ludovic, un choc traumatique. On n'est pas de Tchernobyl, mais il témoigne de la peur des enfants et de son jardin souillé. La terre des agriculteurs aussi, est-elle devenue toxique? Le doute demeure aujourd'hui encore sur toutes les substances qui ont été libérées. Voilà, c'est à lire ce matin dans La Croix qui est retournée à Rouen. Paul, la dernière histoire du jour.
Le site internet de West France nous dresse la liste des IG Nobels 2020. En quelque sorte, les anti-prix Nobel, remis tout de même par l'université d'Harvard, pardon, ce n'est pas une blague. Dans la catégorie psychologie, par exemple, cette année, ce sont des Canadiens qui l'emportent. Oui, parce qu'ils ont fait un lien entre notre personnalité et nos sourcils. Oui, figurez-vous que les sourcils épais et fournis seraient le signe d'un narcissisme exacerbé. En quelque sorte, plus vous avez les sourcils touffus, plus votre ego est surdéveloppé.
Donc là, je suis en train de regarder vos sourcils. Hein.
Je crois que nous, ça va à peu près. Dans la catégorie économie maintenant, le prix revient à des chercheurs pour leur étude sur le lien entre le niveau de revenu et le fait de s'embrasser sur la bouche. Et le résultat, sans appel, plus les inégalités de salaire sont fortes dans un pays, plus la population s'embrasse sur la bouche, tout simplement.
D'accord.
Enfin,
c'est un lien étrange.
Et je vais terminer. C'est
dit qu'il voit pas le rapport.
Non, bah, je vais terminer par la catégorie médecine. Le prix est remporté par des Belges pour leur étude sur la misophonie. Est-ce que vous savez ce qu'est
la misophonie?
Alors, phonie, c'est un rapport avec le son, non?
Oui, alors c'est quand vous êtes horripilé par des petits bruits, par exemple les bruits de mastication forts, les bruits de bouche, ou vous avez tous connu ça, quand votre voisin de bureau tape très fort sur son clavier, les bruits énervants du quotidien. Si vous voulez retrouver le palmarès complet de l'anti-Nobel 2020, c'est à lire sur le site de West France.
Mais ils ont du temps à perdre à Harvard à faire des études sur les sourcils et les...
Mais c'est une étude très sérieuse, contrairement à ce que ça peut laisser paraître.
Oui, c'est sûr.
Bon, ben voilà. Oui. C'est pas la dernière histoire de la semaine. Rideau sur le pressing.
Merci.
Merci à tous les deux.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
5h23, direction Saint-Jean-de-Luz à présent pour les doigts dans l'assiette. Notre rendez-vous avec nos agriculteurs et nos artisans. Nous sommes chez notre fromager ce matin. Bonjour Beignat Moiti.
Bonjour Sébastien.
Comment ça va du côté de Saint-Jean-de-Luz?
Il pleut.
Ah ben oui, bon, ça arrive, ici à Paris aussi, hein, je vous rassure. Quelle est la situation au Pays Basque dans cette crise sanitaire? On ne parle pas de fermer les marchés
non,
à ce stade,
non,
bien sûr, mais
on garde le rythme.
Vous sentez malgré tout une inquiétude un peu ambiante?
Les gens se posent des questions, ça c'est certain.
Et les commerçants aussi, j'imagine.
Pardon?
Et les commerçants aussi, j'imagine.
Ah oui, parce que il y a beaucoup d'enjeux. Surtout dans la restauration, les gens commencent à s'inquiéter de leur avenir.
Ouais, en regardant ce qui se passe du côté de Marseille. Qu'est-ce que vous avez de beau en ce moment sur votre étal?
Eh bien, on commence à rentrer les premiers brebis d'estive. Les fromages d'estive, c'est des producteurs de brebis qui sont en plaine, qui montent les premiers au mois de mai en montagne. Ils montent souvent à pied, si c'est possible. Moi, j'ai un producteur là qui met 8 heures à pied pour monter ses brebis en estive.
Ah ouais.
Et c'est des producteurs qui travaillent sur... une estive, c'est un producteur, un parcours et une cabane. Donc, il peut pas y avoir... on peut pas faire de l'industriel en montagne. On peut faire que du fermier.
D'accord.
Et là, c'est les premiers qui sont intéressants, c'est ceux d'Olivia Bidard. C'est une jeune femme qui travaille toute seule, qui a une centaine de brebis, qui trie à la main tous les matins et qui les monte en estive. Et là, on a les premiers qui sont à... Elle fait des petits formats dans une cave naturelle. Du coup, c'est des fromages qui s'affinent assez vite. Là, j'en ai un qui doit être du 16 mai. Voilà,
Donc ce sont des fromages conçus au mois de mai qui ont affiné tout l'été et qui se retrouvent à la vente aujourd'hui.
Ça reste assez jeune, mais comme c'est une cave naturelle, ça s'affine un peu plus vite, qu'elle fait des petits formats. Et quand je suis passé, je suis monté avec Hélène Darroze en estive cet été, fin août. Et quand je suis passé pour ramasser chez elle les fromages, il lui en restait 16. On est vraiment sur des niches de produits.
Ouais.
Et ils en font très peu, en fin de compte. Elle, elle doit faire, elle doit faire 300 kilos en estime.
Le soleil qu'on a eu au printemps, il se ressent sur le fromage aujourd'hui ?
Ah oui, au mois de mai, c'était très floral. Il y avait beaucoup, beaucoup de fleurs. On n'avait jamais vu autant de fleurs en estive. Et je pense que c'est lié au confinement et que ça a pollinisé plus tôt. Et les saveurs sont vraiment très, très complexes au niveau floral. Très, très intéressant. Voilà, après, il n'y en aura pas beaucoup.
Ouais.
Lié à la sécheresse.
Parce qu'on a manqué ensuite de...
Mais il a manqué d'eau, oui.
Il a manqué d'eau, ouais. Merci beaucoup Beignat Moiti. Ça nous fait saliver tous ces fromages. C'est les troupeaux de brebis donc, qui ont brouté dans les pâturages tout l'été. Et les premiers fromages qui arrivent dans les étals, les fromages d'estive. À très vite, dans les doigts dans l'assiette.
Merci.
Bonne journée à vous du côté de Saint-Jean-de-Luz. Il est 5h27. Et c'est l'heure de la météo avec vous Laurent Cabrol. Qu'est-ce qui nous attend pour ce début de week-end ?
Du tout, hein.
Pas folichon.
Nous allons vivre une journée de vendredi assez désagréable avec dans le sud-ouest de la pluie sur les Alpes, la Franche-Comté, la Corse, la Picardie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. De la pluie et de la neige à partir de 1500 mètres d'altitude. C'est dire si ce sera vraiment un temps plus qu'automnal. Allez, des vents entre 80 et 120 km/h, selon les régions, selon les secteurs. Du mieux cet après-midi si vous êtes en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire et de Poitou-Charentes. Et puis, un ciel très nuageux sur le centre et le massif central. Je n'oublie pas Paris, où devrait y avoir, comme hier, des averses parfois violentes. Et sur le bassin méditerranéen, le soleil sera là, avec Mistral et Tramontane, autour de 100 à 120 km/h. Pardonnez-moi, je suis essoufflé parce que j'ai couru pour venir.
On s'essouffle avec le masque un petit peu.
Et il n'y a pas que ça, il y a le masque. Température maximale entre 14 et 18 degrés, 18 à Lyon et 14 degrés à Sedan.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci d'être fidèle à Europe 1 et au 5-7 pour vous réveiller tout de suite. Un nouveau journal. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
La semaine prochaine, j'avais différentes interventions prévues en chirurgie de l'obésité que je vais, par précaution, décaler puisqu'il ne s'agit pas d'une chirurgie urgente.
20% des opérations déprogrammées dans les hôpitaux parisiens, décision prise face à l'afflux de malades. Les restrictions pour les bars et les restaurants ont toujours beaucoup de mal à passer à Marseille, Paris, mais aussi à Lille où certains établissements ne s'en remettront pas. Le bracelet anti-rapprochement déployé à partir d'aujourd'hui dans plusieurs régions, c'était une promesse du Grenelle pour lutter contre les féminicides. Et puis pas plus de 1000 spectateurs par jour à Roland-Garros, le tournoi n'aura pas de régime de faveur. Quant aux joueurs, ils sont soumis à un strict protocole sanitaire.
Au-delà de la colère des élus et restaurateurs de Marseille, quelle est la réalité de la situation dans les hôpitaux ? Dans 10 minutes, nous serons au cœur de l'hôpital de la Timone. J'appelle le chef du service de réanimation, le professeur Nicolas Bruder. Et puis les Français ont des idées. La France bouge avec Jérôme Lacroix. Ces belles initiatives dans nos régions. Il est 5h31, bienvenue à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Plus de 16 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures, c'est un record et le taux de positivité ne cesse de grimper. Il est désormais à 6,5% des personnes testées. Les services de réanimation reçoivent de plus en plus de malades, conséquence des opérations déprogrammées progressivement.
Et à Paris, ce sont même 20% des interventions non essentielles qui seront décalées à partir de ce week-end. Pierre Herbulot.
Plus les lits en réanimation sont occupés par les patients Covid, moins Samy Chaibi, chirurgien digestif à l'hôpital de Creil, peut opérer. D'ailleurs, personne ne le sera dans son service la semaine prochaine. Ça n'était plus arrivé depuis la première vague.
La semaine prochaine, j'avais différentes interventions prévues en chirurgie de l'obésité que je vais, par précaution, décaler, puisqu'il ne s'agit pas d'une chirurgie urgente, à une date ultérieure en raison d'un nombre d'infections Covid de patients hospitalisés en réanimation. Je préfère décaler ces interventions.
Pour organiser ces déprogrammations, les chirurgiens de chaque spécialité se réunissent en conseil de bloc opératoire. Ils regardent le planning des opérations et suppriment les moins essentielles, explique Didier Leget, urologue à Grenoble.
Les urgences vitales, elles sont opérées. Les semi-urgences vitales, elles sont opérées. La cancérologie, il faut l'opérer.
Par contre, bah, la prothèse de hanche, la prothèse de genou, le ligament croisé, le canal carpien, la cataracte, plein de pathologies dites bénignes et fonctionnelles, on va les décaler. Mais certaines de ces pathologies fonctionnelles peuvent se compliquer.
D'autant que reprogrammer une intervention chirurgicale peut prendre beaucoup de temps. Dans le service du docteur Chaibi, certains patients attendent depuis le mois de mars de pouvoir être opérés.
Reconfinement, le mot fait peur, c'est ce qu'on craint tous. Et pourtant, Jean Castex a prononcé ce mot hier soir. Il était l'invité de France 2. Le Premier ministre s'est inquiété d'une situation qui pourrait ressembler à celle du printemps.
Il n'a donc pas exclu un reconfinement, ajoutant qu'il fallait l'éviter à tout prix. Malgré tout, les nouvelles restrictions passent mal, notamment pour les bars et les restaurants de Marseille qui devront fermer demain. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, va déposer un référé dans la journée. Dans la métropole de Lille, leur limite de fermeture sera fixée à 22h à partir de lundi. Les professionnels sont partagés entre colère et incompréhension. Reportage Lionel Gougelot.
Une fermeture anticipée à 22h, c'est comme un coup de grâce pour Guillaume Delbar, qui dirige l'un des bars de nuit les plus courus du Vieux-Lille.
J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires depuis le 2 juin. Clairement, là, on est parti pour faire du 95% de moins. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Je peux pas garder tout mon personnel, je peux pas rester ouvert.
Une décision qui, selon lui, stigmatise injustement toute une profession.
On est considéré comme des nids à virus, alors que c'est absolument pas juste. On a mis toutes les distanciations sociales, le gel hydroalcoolique dans les toilettes, plus de sèche-main. On fait respecter l'ordre dans l'établissement, on accueille nos clients à la porte, on place nos clients aux tables. On ne peut pas faire mieux. Aujourd'hui, on paye les pots cassés pour les établissements qui n'ont pas fait correctement leur travail, quoi, c'est tout.
Victime collatérale de cette fermeture anticipée, Alban, employé comme extra dans un de ses bars.
Moi, à partir de 22h, normalement, je suis censée bosser jusqu'à la fermeture. Donc si ça ferme à 22h, je ne travaille plus et je n'ai plus d'emploi. Je me retrouve au chômage.
Mesure d'autant plus stupide, dit Jefferson, un client, qu'à la fermeture de ces bars, beaucoup de jeunes se retrouveront chez eux, et cette fois sans précaution.
Et ça restera le même problème, parce qu'une fois l'alcool dans le sang, c'est des câlins, c'est des bisous, c'est pas de masque, c'est aucune distanciation, parce qu'on a à la maison, que c'est la fête, quoi.
Alors on ira bien manifester la semaine prochaine devant la préfecture, confie un patron de bar, mais sans illusion, puisque le mal est fait. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Une manifestation est donc prévue pour mardi soir prochain à Marseille. Rassemblement ce matin à 9h devant le tribunal de commerce.
Et dans 5 minutes maintenant, juste après le journal, j'appelle le professeur Bruder qui dirige le service de réanimation de l'hôpital de la Timone à Marseille. Il est 5h34, éloigné à tout prix un conjoint violent. Les premiers bracelets anti-rapprochement seront distribués dès aujourd'hui dans 5 juridictions.
Aix-en-Provence, Douai, Pontoise, Angoulême et Bobigny, des bracelets qui doivent permettre de protéger les femmes avant qu'un drame ne se produise. Comment ça fonctionne ? Réponse Virginie Riva.
Dès sa sortie du tribunal, après avoir vu un juge, la victime se voit remettre un boîtier qui ressemble à un téléphone portable, tandis que son conjoint ou ex-conjoint se fait poser un bracelet à la cheville. Après connexion des deux appareils, il devient possible de contrôler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via une plateforme de télésurveillance les déplacements du conjoint violent. Un périmètre est défini par le juge, une zone d'alerte dans un rayon de 1 à 10 km qui ne peut pas être franchi. Si le conjoint s'approche trop près de la victime, il est appelé par la plateforme. La victime, elle, voit alors un gros rond rouge s'afficher sur son boîtier. Elle est appelée et guidée pour se mettre à l'abri. Si le conjoint ne répond pas ou ne rebrousse pas chemin, la police est prévenue via un appel prioritaire. Elle rejoint alors la victime le plus vite possible et, dans un second temps, interpelle l'auteur des faits. Bien entendu, la victime peut elle aussi déclencher le dispositif de SOS. La grande nouveauté, c'est que ce bracelet peut être distribué avant ou après toute condamnation du conjoint violent. Mais si c'est avant, seul bémol, c'est sous réserve qu'il y consente. S'il refuse, le juge peut alors saisir le parquet.
Et pour l'instant, 1 000 000 de bracelets seront distribués au cas par cas.
Ça y est, Roland-Garros démarre ce dimanche à la Porte d'Auteuil, mais c'est un tournoi quasiment à huis clos qui s'annonce.
Oui, Jean Castex l'a confirmé hier soir, la jauge du public sera ramenée de 5 000 à 1 000 spectateurs par jour, dans la logique des dernières restrictions annoncées avant-hier. Le protocole sanitaire est déjà en place pour les qualifications qui se déroulent en ce moment. 900 tests Covid pour l'instant, 6 exclusions et une pression supplémentaire pour les joueurs comme ce jeune Français qu'a rencontré Corinne Boulou.
C'est vrai que ça fait peur. Le pire, c'est que moi, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'en fonction des endroits où on se fait tester, les tests sont complètement différents. On a presque l'impression de jouer à pile ou face, quoi.
Enzo Cuoco a 2 adversaires finalement à combattre cette année. Le premier est invisible, mais capable de réduire à néant vos chances d'aller sur le court. Les joueurs se font tester dans des salles spécialement aménagées dans les 2 hôtels qui leur sont réservés. La cellule médicale de Roland-Garros, dirigée par le docteur Bernard Montalvan, a dû d'ailleurs doubler ses effectifs pour engager ce protocole.
Ils arrivent, ils sont testés, ils restent dans leur chambre et après ils attendent le résultat de leur test pour pouvoir commencer à s'entraîner. On fait 2 tests. S'il y a un joueur qui sort positif, On reprend son échantillon, on le reteste sur une autre machine, ce qui demande 5 heures de plus, pour donner la positivité du test. C'est pour ça que nous, on a tout acté avant, tout écrit avant, pour que les joueurs savent bien où mettre les pieds. Parce qu'on savait bien que ça allait poser des problèmes.
Et avec l'arrivée de l'automne, il va falloir aussi distinguer le simple rhume d'une éventuelle contamination.
C'est hyper compliqué pour nous. Donc probablement, on va faire plus de PCR.
Et pour le moment, les tests sont renouvelés tous les 5 jours et le protocole n'autorise aucune sortie, aucune promenade, sous peine d'exclusion.
Et le tirage au sort, c'est tout à l'heure à 18h.
Et on suivra bien sûr Roland Garros sur Europe 1. Faute de pouvoir y assister, vous pourrez suivre tous les matchs sur Europe 1. C'était le journal d'Hélène Zellani. Il est 5h38. Place aux courses. Thierry Léger, quels sont vos pronostics pour le quintet ?
Direction Laval en Mayenne pour un quintet en nocturne avec un grandissime favori, le numéro 5, Valzer di Poggio. Il reste sur 8 victoires consécutives, toutes obtenues avec une dérisoire facilité, n'ayant encore jamais été battu cette année. Plus il court, meilleur il est. Et sans incident, il va gagner de loin. Derrière cet épouvantail, je vous propose le numéro 1, Wulwutalov, visiblement au mieux, comme le prouve son dernier succès à Reims, qui faisait suite à une prometteuse quatrième place dans un quintet le 12 août à Enghien. Ensuite, il faut retenir les numéros 4, Capital Charm, 3, Ever Pride et 2, Herdelios, tous les trois bien placés en première ligne derrière l'autostart et qui, à l'issue d'un parcours caché, me semblent être d'excellentes possibilités pour les places. Enfin, les numéros 6, Dénicheur du Vif, 12, Enska et 8, Comète d'Arche, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, As, 4, 3, 2, 6, 12 et 8.
C'est noté, Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr. Bon week-end, il est 6h20.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Invité du 5-7 ce matin, le professeur Nicolas Bruder. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez le service de réanimation de l'hôpital de la Timone à Marseille. Marseille placée en zone d'alerte maximale par le gouvernement. Quelle est la situation aujourd'hui dans votre service ?
La situation est une augmentation constante à la fois du nombre de malades hospitalisés et bien sûr en conséquence du nombre de patients en réanimation. Donc depuis en gros début septembre, on voit tous les jours une augmentation du nombre de patients en réanimation, plus lente probablement que lors de la première phase, mais qui ne se dément pas.
Combien de patients Covid occupent des lits aujourd'hui dans votre service de réanimation ?
Alors dans mon service où on a 20 lits de réanimation, on a 15 lits Covid et on a actuellement 14 lits pris sur les 15, mais sur l'assistance publique, plus globalement, puisqu'on a mis des patients un peu dans toutes les réanimations, on a 45 lits de réanimation dédiés au Covid.
Ça veut dire qu'à la Timone, en tout cas dans votre service de réanimation, il ne reste plus qu'un seul lit dédié au Covid. Quel est le terme que vous utiliseriez ? Est-ce que les hôpitaux marseillais sont proches, comme on l'entend, de la saturation ?
Dans les réanimations, on arrive effectivement proche de la saturation, à la fois d'ailleurs sur le Covid et puis sur les patients non-Covid, puisque la grande différence par rapport à la première vague, c'est qu'il n'y a pas de confinement et donc on continue à avoir une activité de réanimation entre guillemets normale.
Vos collègues parisiens à la PHP ont décidé de repousser 20% des opérations chirurgicales non urgentes pour libérer de la place. Est-ce que c'est une mesure que vous envisagez à Marseille ?
Oui, alors c'est une mesure qu'on n'a pas encore prise. On a continué avoir une activité importante qui a rattrapé en gros le creux d'activité de la première vague. Mais effectivement, si ça continue à augmenter, c'est une mesure non seulement qu'il faudra envisager, mais qui sera incontournable.
Quel âge ont ces patients aujourd'hui ? Ce sont des cas qui sont graves ? Ce sont des malades que l'on place à nouveau sous respirateur ?
Chez nous, on a à peu près la moitié des patients sous respirateur dans la réanimation. Et puis l'autre moitié qui sont des patients avec d'autres techniques, mais qui sont très oxygénodépendants. Les patients graves, comme toujours, vous savez, sont des patients qui ont le plus souvent plus de 60 ans, mais pas que.
Ces décisions prises pour Marseille, fermeture totale des bars et des restaurants, provoquent beaucoup de remous aujourd'hui. Et à nouveau, l'équipe du professeur Raoult à l'IHU tient un discours totalement différent. Rien d'affolant, disent-ils, il reste des lits. La mortalité n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Comment vous comprenez ce discours si différent ?
Vous savez, il y a peut-être une volonté d'apaiser les gens. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est la volonté. Après, sur les chiffres, comme toujours, on peut interpréter les chiffres de plusieurs manières différentes. Je vous ai dit, il y a 45 patients dans les réanimations. Tous ces 45 patients sont des patients en danger de mort quand même, hein, puisque s'ils ne viennent pas en réanimation, ça va très probablement mal se passer. Donc évidemment, pour l'instant, on doit en être à une vingtaine de décès dans les Bouches-du-Rhône liés au Covid. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je verrais les choses de manière un peu différente. C'est que, bien sûr, il y a des décès liés au Covid, et donc il y a un certain nombre de patients graves. Et puis, il y a aussi, on le disait il y a une minute, hein, la surcharge des lits en réanimation qui fait qu'on a plus de mal à traiter aussi les autres patients. Donc, ça pèse sur le système de soins, il n'y a aucun doute. Alors, si ça s'arrête là, ça va aller. Mais si ça continue comme ça, pendant 2 ou 3 semaines sur le même rythme, ça va devenir vraiment ingérable. Donc, il faudrait qu'il y ait une inflexion qu'on a vue très clairement lors de la phase de confinement pour la première vague. Il faudrait là arriver à quelque chose de similaire. C'est absolument indispensable.
Il y a beaucoup d'incompréhension. Hein. Les bars, les restaurants se sentent stigmatisés à Marseille. Un rassemblement est prévu aujourd'hui pour contester toutes ces mesures qui sont prises à Marseille. Que dit le médecin que vous êtes ce matin aux cafetiers et aux restaurateurs ?
Écoutez, c'est difficile. Ce qui est clair, c'est que les rassemblements importants, ça diffuse le virus. Après, est-ce qu'il faut cibler les restaurateurs ou les bars ? Ça, je ne sais pas. C'est une décision politique. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas laisser les choses évoluer comme ça sans rien faire. Si tout le monde fait attention, l'épidémie va régresser et on pourra lever ces mesures qui sont, je vous l'accorde, un peu discriminatoires.
15 jours, c'est la durée de fermeture annoncée. Vous y croyez ? Ça peut suffire 15 jours pour enrayer l'évolution actuelle ?
Ça peut suffire. Ça peut suffire pour amorcer une décroissance. De toute manière, l'épidémie, on le voit bien, elle ne va pas s'arrêter par magie, elle va continuer. Tout dépend du niveau auquel elle est. Nous, on sait faire face à 10, 20, 30 patients Covid dans les réanimations. On ne sait pas faire face à 100 patients Covid dans les réanimations.
Ouais, il ne faudrait pas que cela triple à Marseille. Vous n'aviez pas connu de très forte première vague. Vous aviez été relativement épargné au mois de mars. Est-ce qu'aujourd'hui, l'hôpital de la Timone est prêt à faire face ? Est-ce que vous ne manquerez de rien, de matériel, de gants, de masques, de blouses, de personnel ?
Non, écoutez, on avait été épargné, mais très relatif quand même, parce qu'on a vu beaucoup de patients. On a quand même évidemment beaucoup appris de la première vague. Donc effectivement, on a le matériel, on a les gants, on a tout ce qu'il faut. Le problème, c'est le personnel. Actuellement, nous sommes dans une phase où on essaie d'augmenter les lits de réanimation pour faire face, évidemment, à tous ces nouveaux malades. Et ce qui nous manque, c'est essentiellement le personnel paramédical. Les médecins, on arrive encore à les trouver, à leur faire faire d'autres activités, des activités de réanimation notamment, le transfert du bloc opératoire dans les réanimations.
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu des départs de ces personnels ?
Ben non, mais vous savez, au fur et à mesure que l'épidémie augmente, on peut opérer un peu moins et donc les anesthésistes qui étaient au bloc et qui sont compétents en réanimation, on les met dans les réanimations. Ça, c'est assez simple pour nous. C'est beaucoup de pression, beaucoup de travail, tout ce qu'on veut, mais on peut le faire. Les infirmiers, en revanche, on n'avait déjà pas beaucoup avant la crise. Là, ça devient une denrée rare et c'est un vrai problème.
Merci beaucoup. Merci, professeur Nicolas Bruder, pour ces éléments ce matin sur Europe 1, chef du service de réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille. Merci à vous. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée aussi.
Europe 1.
Il est 6h moins le quart sur Europe 1 et c'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France. Avec vous, Jérôme Lacroix, comme chaque matin. Où est-ce qu'on va ?
Balade en forêt ce matin, tenez, je vous emmène en forêt de Troncé, c'est dans l'Allier, terre bourbonnaise, à la rencontre d'arbres monumentaux et remarquables. Ils sont si beaux que souvent, eh bien, malgré eux, les nombreux promeneurs les abîment, les fragilisent, leurs racines. Et la solution, elle est venue d'un groupe d'artistes, je vous raconte.
Voilà, les Français ont des idées, c'est Jérôme Lacroix qui vous raconte chaque matin. Et puis Paul Lassène nous dira qu'une sortie de Nicolas Bedeau sur les réseaux sociaux où il appelle à s'affranchir des mesures sanitaires, cette sortie fait beaucoup, beaucoup parler. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h47 sur Europe 1. La fronde contre la fermeture des bars et des restaurants à Marseille. Le président de la région dépose aujourd'hui un référé et une manifestation est prévue à 9h devant le tribunal de commerce. De nouvelles aides pour les entreprises touchées par les fermetures obligatoires ou les restrictions. Annonce de Jean Castex hier soir sur France 2. Ces entreprises seront exonérées de charges sociales pendant toute la période concernée. Et puis au Brésil, cette décision très symbolique, Rio reporte son célèbre carnaval. Raison officielle, les écoles de samba n'auront ni l'argent ni le temps pour s'organiser d'ici au mois de février prochain.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de la France bouge. Chaque matin, on vous raconte ses projets, ses initiatives de particuliers ou d'entreprises qui tentent de faire avancer la société. Aujourd'hui, Jérôme Lacroix, une action au secours des arbres, mais pas n'importe quels arbres.
Ils s'appellent Émile Guillaumin, Charles-Louis-Philippe. Ce sont des chênes baptisés des noms de poètes et d'écrivains. bourbonnais originaire de l'Allier. Je vous emmène en effet en forêt de Troncet, plus de 10 000 hectares au nord-ouest du département. Cette forêt, elle est peuplée de très nombreux chênes, dont certains absolument magnifiques et remarquables, à tel point que les promeneurs, bien sûr, les cherchent, les rencontrent, les approchent et, bien malgré eux, les abîment, ces colosses, ces rhodes. Alors, pour les protéger, l'Office national des forêts qui gère les lieux a eu une idée.
Alors, quelle est cette idée? Comment on peut protéger ces arbres somptueux?
Pas de n'importe quelle manière. L'Office a demandé à trois créateurs, trois artistes, d'imaginer des équipements de protection et que ces équipements soient beaux parce que les visiteurs, en marchant autour des arbres, tassent les sols, ce qui provoque l'asphyxie des petites racines de surface, expliquait il y a peu le journal La Montagne. Alors, un paysagiste, par exemple, a installé au départ de l'un de ces arbres remarquables, vraiment au niveau du tronc, un ponton de bois de près de 50 mètres. Il retranscrit, cette longueur retranscrit la hauteur de l'arbre. Le poids des pas des promeneurs est ainsi amoindri quand ils marchent sur le ponton de bois. Un autre artiste a créé des estrades rondes autour de deux autres arbres, avec aussi de grands bancs circulaires installés à 5 mètres du tronc. Tout ça, ce sont de vrais écrins, confectionnés pour certains à partir de bois de tonneau utilisé pour l'affinage du cognac du bois de la forêt de Troncet. Au total, 5 arbres remarquables sont ainsi équipés de protection, un travail qui emballe les artistes. Ils sont ravis de préserver la nature tout en mettant en valeur cet endroit magnifique sans le dénaturer.
Bravo, c'est malin et ça marche. La France bouge chaque matin avec Jérôme Lacroix. Paul Lassène, qu'est-ce qui bouge sur les réseaux sociaux?
Un message posté par l'humoriste, auteur, comédien, réalisateur Nicolas Bedos sur son compte Instagram. Vivez à fond, tombez malade, poste dans lequel il invite les Français à contredire, je cite, les lâches directives gouvernementales. Des mots forts salués par certaines stars comme Laurent Ruquier ou Elise Moon par exemple, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un torrent de critiques qui s'abattent sur Nicolas Bedos. Je vous admirais. Mais là, pensez à toutes ces personnes en deuil, aussi d'un être cher terrassé par ce virus, écrit un internaute. Une femme malade a elle aussi interpellé l'humoriste. La seule chose qui me protège sont le masque et les gestes barrières. Si une personne suit votre avis et s'approche de moi avec le virus, je suis morte et je n'ai pas envie de mourir, écrit-elle. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui-même a aussi réagi hier lors de son audition au Sénat.
Sur le grand sujet presque philosophique de savoir s'il faut vivre quitte à en mourir. Je pourrais comprendre ce type de réflexion, c'est l'emporter des conséquences sur sa seule santé.
Enfin, certains médecins proposent à Nicolas Bedos de venir donner un petit coup de main pour remplir les listes de gardes en réanimation, car dans les prochains jours, les effectifs vont doubler la nuit, écrit un médecin en réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Moi aussi, je souhaite vivre à fond, conclut-il.
Ouais, oui, ça serait peut-être pas mal qu'il aille faire un tour à l'hôpital,
oui, pour voir comment ça se passe,
ce que ça donne. Voilà, lisez ce qu'écrit Nicolas Bedos. Faites-vous votre avis, mais c'est vrai que ça provoque beaucoup de réactions. Merci beaucoup, Paul Lassène.
Merci.
À lundi, 5h51. On la raconte, c'est tous les jours à 14h sur Europe 1. Et dès maintenant, en podcast, vous pouvez déjà retrouver l'histoire du jour, celle de l'assassinat de Fualdès, qui a tué le procureur Fualdès en 1810. À Rodez, une affaire qui à l'époque avait passionné le monde entier. Le récit, on la raconte, à télécharger sur Europe1.fr. Et le succès se poursuit en musique sur des airs italiens, des airs de soleil ce matin. Zucchero, ça sent le week-end. On blindera votre partition dans un instant.
Europe 1.
Il est 5h53, nous ouvrons la partition d'Omblin Roche chaque matin. L'histoire derrière une chanson ou derrière un artiste. Et ce matin, c'est l'un des monuments de la musique italienne, le chanteur Zucchero qui fête ses 65 ans.
Il est, Sébastien, la plus grande star italienne du blues rock. Le Joe Cocker transalpin avec sa voix rocailleuse et puissante. En 45 ans de carrière, Zucchero a joué avec des géants comme Eric Clapton, Ray Charles, Bono de U2 ou Luciano Pavarotti.
So beautiful to me.
Alors son vrai nom c'est Adelmo Fornaciari. Il a grandi au nord de l'Italie.
Une enfance heureuse dans un petit village typique de l'Italie des années 60. Des parents fermiers, élevé par sa grand-mère, initié à la musique par un oncle communiste qui joue de l'harmonica.
Et c'est sa maîtresse d'école qu'il a surnommée Zucchero.
Oui, comprenez, adorable. Zucchero est passé à ça de devenir vétérinaire finalement, doté d'une voix hors norme. Ce sera la musique.
Zucchero s'installe en Californie et il s'imprègne de musique gospel qu'il chante dans l'église de son quartier.
Une initiation vocale qui ne fait que renforcer son amour pour les musiques noires américaines. En 1987, la barbe ne lui a pas encore envahi le visage. Le chapeau, ce sera aussi pour plus tard. Il entre en studio pour enregistrer son quatrième album baptisé Blues.
Un disque qui lui permet de gravir la pente ascendante du succès.
Et oui, 10 chansons soul, rhythm and blues et pop. Un répertoire plutôt éclectique qui séduit même un auditeur assez inattendu. Qui aurait cru que la musique de Zucchero pouvait captiver Miles Davis ?
Zucchero aime raconter cette histoire. Une nuit, il est appelé par son manager. Il doit se rendre immédiatement à New York pour rencontrer Miles Davis.
Et le chanteur italien pense d'abord que c'est une blague. Il est en vacances aux Maldives pour essayer de sauver son mariage. Il doit choisir entre recoller les morceaux avec son épouse ou entrer en studio avec Miles Davis. Son mariage sombre, il réenregistre Dune Mossé avec le trompettiste.
Élevé au rang de gloire dans son pays, il franchit encore en catimini les frontières.
Il faudra attendre 1991 et son duo avec Paul Young pour voir sa notoriété exploser.
Millions d'albums vendus quand même, Zucchero.
Oui, associé à Paul Young là à l'instant avec Senza Una Donna, c'est la version de 1991, adaptation d'une chanson extraite de son album Blues paru 4 ans plus tôt. Zucchero devrait être en tournée normalement en France en juin 2021.
Oui, si tout va bien et si les concerts reprennent. Voilà, nous avons terminé cette semaine avec une partition italienne. Merci Amblin, bon week-end.
Bon week-end.
Laurent Cabrol. le temps de ce vendredi?
C'est un temps marqué par la pluie, hein, des pluies assez fortes et surtout par du vent. 80, 100, parfois 120 km/h. Hein, ce sont des tendances importantes de ces vents qui vont souffler essentiellement sur le littoral de la Manche et le littoral atlantique. Si l'on regarde de la carte de France à l'heure où nous parlons, c'est très curieux. C'est que toutes les pluies se situent sur l'ensemble des côtes. C'est-à-dire que vous avez les côtes de la Manche, les côtes atlantiques, les côtes méditerranéennes. Vous avez de la pluie dans tous ces secteurs-là. Vous en avez ensuite sur les Pyrénées. Alors il ne reste plus, et sur les régions de l'Est, tout l'Est est touché par la pluie. Il ne reste plus qu'une petite frange tout là-haut, les frontières belgo-luxembourgo-allemandes, qui sont un peu à l'abri des intempéries. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas, tout au long de la journée, eh bien, nous aurons des averses, des éclaircies très peu et beaucoup de vent sur les régions de France. On ne va pas faire dans le détail et surtout les températures à la baisse entre 11 et 18 degrés ce matin et dans l'après-midi entre 16 et 25 degrés. Vous voyez que les températures baissent vraiment dans la journée également.
Ça y est, l'automne est là, et bien là. À tout à l'heure, Laurent.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Si vous ouvrez l'œil, c'est le 5-7. On se réveille ensemble et on s'informe. Un nouveau journal, tout de suite. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est précisément 6h.
De samedi, donc a priori. Mais on ne sait pas si c'est vendredi soir, samedi soir. Il y a même des communiqués encore, ce serait lundi. On ne sait rien.
Le désarroi des restaurateurs et des tenanciers de bars à Aix-en-Provence, toujours dans le flou. Leurs établissements vont devoir fermer leurs portes dans quelques heures, oui, mais jusqu'à quand? Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Jean Castex a reconnu ne pas avoir téléchargé l'application Stop Covid, premier grand oral du Premier ministre hier soir. Dans ce journal également, bientôt un système d'alerte par SMS en cas de catastrophe. Changement de visage à la tête de la BRI. Et puis nous verrons ce qui nous attend dans les salles ces prochains mois avec le spécialiste cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier.
Après le journal, mon invité inattendu est un fan de Mylène Farmer. Il ne rate jamais une nouvelle chanson ou un concert. Il sera donc rivé aujourd'hui sur le nouveau documentaire dédié à la chanteuse. Ce fan, vous l'avez connu comme ministre sous François Hollande. Et quand le président l'appelait, figurez-vous que c'est Mylène Farmer qui sonnait sur son téléphone. Il nous raconte dans 10 minutes. Et puis notre environnement, notre planète avec Fanny Agostini et le revêtement de nos casseroles et de nos poêles en question ce matin. Bon réveil à tous, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La fracture s'intensifie entre Paris et les Bouches-du-Rhône. À Marseille, les élus et les restaurateurs ont lancé une fronde contre la fermeture des bars et restaurants. Une mesure pour lutter contre l'épi de coronavirus jugée catastrophique. Colère aussi à Aix-en-Provence où la fermeture des établissements est imminente. Sauf qu'il reste encore beaucoup de zones d'ombre et les professionnels ont du mal à s'organiser. Stéphane Frangy.
Le sentiment d'injustice est très fort ici aussi, au point de défier les autorités et ouvrir tout de même son commerce, pas si sûr.
On parle de faire ça, mais bon, les conséquences sont trop graves. On ne peut pas se permettre de faire une chose comme ça si on est seul, isolé, quoi. Il faudrait que tout le monde se mette à le faire. Mais bon, là, on est pris de court, on ne peut pas le faire comme ça de but en blanc.
Mais la colère laisse vite la place au questionnement. Comment s'organiser quand les informations que l'on reçoit sont contradictoires? À commencer par le jour de fermeture.
À partir de samedi, donc a priori. Mais on ne sait pas si c'est vendredi soir, samedi soir. Il y a même des communiqués encore, ce serait lundi. On ne sait rien.
Comment vous le vivez?
Pas bien, parce qu'on ne sait pas comment réagir par rapport aux fournitures, etc. Ça va être compliqué, parce qu'il prévoit 15 jours, si je ne me trompe pas. Peut-être renouvelable.
Et ce sentiment d'urgence d'engranger le plus de trésorerie possible avant la fin du compte à rebours.
On doit vivre un gros week-end pour pouvoir essayer d'engranger un peu d'argent pour faire les payes aussi en fin de mois. Voilà, donc là encore, on va devoir se démerder.
Et essayer surtout de vider les frigos d'ici là et gaspiller le moins de denrées alimentaires possible. Aix-en-Provence, Stéphane Frangy, Europe.
Et ce matin, les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie sont appelés à manifester devant le tribunal de commerce de Marseille.
De son côté, le gouvernement assume. Jean Castex a répondu aux Marseillais hier soir lors de son grand oral sur France 2. Le Premier ministre a justifié la décision du gouvernement de fermer les bars et restaurants. C'est le seul moyen d'éviter que la situation sanitaire ne dégénère, dit-il.
Le Premier ministre qui en a profité pour faire un point sur l'épidémie en France, mais aussi pour faire un aveu qui a quelque peu surpris sur le plateau. À l'instar du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et son homologue à la citoyenneté, Marlène Schiappa, lui non plus n'a pas pris la peine de télécharger l'application Stop Covid.
Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, vu les activités qui sont les miennes, vous les voyez, oui. Très honnêtement. Stop Covid, c'est très intéressant quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde. Vous avez, malheureusement, l'exercice de mes fonctions... fait que je ne prends plus le métro, je le regrette.
Vous avez vu Christian Prudhomme, heureusement qu'il vous a prévenu, parce que l'application...
Il y a Bruno Le Maire que vous croisez qui est malade.
Oui, oui, mais en tout cas, je vois quand même, hélas, beaucoup moins de monde de prêt que l'utilisation
juste
de
une question.
COVID.
Voilà le Premier ministre Jean Castex lors de son grand oral sur France 2 hier soir.
Il est 6h04 sur Europe 1. Bientôt un nouveau système d'alerte pour avertir la population en cas de catastrophe via SMS.
C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier à Rouen à la veille du premier anniversaire de l'accident de Lubrizol. Cell Broadcast, c'est le nom du dispositif diffusion cellulaire en français. Il sera mis en œuvre l'été prochain, d'abord dans les grandes villes, puis généralisé début 2022.
Jean-Gabriel Bourgeois, il y a urgence hein, puisqu'une directive européenne oblige les États à mettre en œuvre ce système d'ici 2022.
Au XXe siècle, on est passé du tocsin à la sirène. Et au XXIe siècle, on passera de la sirène donc au téléphone portable.
Un texto en cas de danger industriel ou naturel. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la France doit passer à la vitesse supérieure pour alerter la population.
Est-ce un feu ? Est-ce une inondation ? S'agit-il de fumée toxique ? Et que faire ? Est-ce qu'on doit rester chez soi ? Est-ce qu'on doit quitter sa maison ?
Ce sont de mini-messages prioritaires envoyés au même moment dans une zone ciblée, y compris quand le réseau est saturé. Le dispositif existe déjà dans d'autres pays, notamment pour les alertes climatiques, et la France a du retard. Un an après l'incendie de Lubrizol, les sinistrés sont dubitatifs. Simon de Carvalho préside un collectif de riverains.
Ça fait un an qu'on a subi la catastrophe, ça fait 10 ans qu'ils en parlent. Mais ils attendent quoi ? Vous vous rendez compte, s'il y a une catastrophe demain ici à Rouen, on va être encore victime du même problème, quoi. Il y a une angoisse permanente là-dessus.
50 millions d'euros ont été débloqués par le gouvernement pour mettre en place la diffusion cellulaire. Rouen, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
La fin d'une époque à la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire parisienne.
En plein procès des attentats de janvier 2015, nous avons encore en tête les images de l'assaut à l'hypercachère, les policiers d'élite du RAID et de la BRI côte à côte. Eh bien, cette BRI est aujourd'hui dans la tourmente. Son chef, très contesté en interne, le commissaire Molmy, devrait bientôt quitter ses fonctions. Guillaume Bié.
C'est une figure de la police judiciaire. Chef de la BRI depuis plus de 6 ans, il a vécu les assauts de l'hypercacher et du Bataclan. Mais aujourd'hui, c'est une crise interne que le commissaire Molmy doit affronter. La défiance d'une partie de ses hommes et la pression de plusieurs syndicats qui réclament son départ tractent à l'appui. En cause, ses méthodes de management. Certains reprochent au patron de l'anti-gang, je cite, « son égo démesuré ». Plus de réunions avec ses chefs de groupe, plus de débriefing des interventions. Bref, une très mauvaise ambiance, un climat devenu intenable. Christophe Molmy, que nous avons joint, ne souhaite faire aucun commentaire. Mais l'un de ses soutiens à la BRI souligne le contexte. L'incertitude depuis 2 ans autour de l'avenir de cette unité d'élite qui fait de moins en moins d'interventions et qui pourrait être rattachée au RAID. Entre rancœurs internes et conflits hiérarchiques, le sort du commissaire Molmy est scellé. D'après nos informations, il devrait prochainement quitter la BRI. Ni une sanction, ni une promotion, résume un policier, mais plutôt une sortie de crise.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
La suite du journal à 6h09 avec Sophie Echen.
Le traditionnel congrès annuel des éditeurs de films, c'était hier à Deauville. Le principe est simple, les distributeurs présentent les bandes-annonces et extraits qui vont sortir dans les prochains mois pour les inciter à les programmer dans leur salle. Mathieu Charrier, vous êtes le spécialiste cinéma d'Europe 1. Sur les 265 bandes-annonces présentées, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Alors du côté des étrangers, c'est vrai que le programme est très light, mis à part James Bond qui s'annonce à la hauteur, tout comme le nouveau Top Gun que l'on attend toujours. On a d'ailleurs revu les mêmes images que celles qui nous avaient été présentées l'an dernier. En revanche, du côté des Français, le programme est dingue. OSS 117, j'ai vu 3 teasers, le nouveau film en Afrique noire s'annonce à la hauteur, ça sortira en février. Dingue aussi, les premières images d'Eiffel sur l'histoire d'amour de Gustave Eiffel sur fond de construction du monument. Très séduisant aussi le nouveau film d'Albert Dupontel ou le discours adapté du roman à succès de Fab Caro. Et puis à Noël, place aux tuches numéro 4 qui se déroule justement pendant les fêtes de Noël. Et en exclusivité pour Europe 1, voici le chant officiel entonné par la famille Tuche et dévoilé hier à Deauville.
Oh, vive les frites, vive les frites, vive les frites d'hiver. Boule de gras et sauce qui pique et une suce pour grand-mère.
Voilà, bon, bah, les Tuches. Hein. Ça promet, les Tuches. 6h10 sur Europe 1, c'était le journal de Sophie Echen.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Jérôme Lacroix, votre journal des sports avec à la une les mots que les organisateurs de Roland-Garros ne voulaient pas entendre.
Nous appliquerons à Roland-Garros les mêmes règles qu'ailleurs. Les mots du Premier ministre Jean Castex hier soir sur France 2 traduction. 1000 spectateurs par jour maximum au tournoi de tennis parisien qui démarre dimanche. Alors les organisateurs poussaient pour une dérogation pour 5000 personnes, mais non, jauge encore réduite. Pour la troisième fois en moins de 3 semaines, ça fera 15 000 spectateurs tout au long de la quinzaine parisienne. C'était 500 320 000 l'année dernière, c'est dire le manque à gagner, il est considérable. Mais le tournoi se tiendra bien, on peut dire que c'est le point positif. Et malgré le climat pesant, l'enthousiasme des joueurs, lui, n'est pas raboté. Confirmation du capitaine de Coupe Davis, Sébastien Grosjean.
Les joueurs maintenant sont habitués à jouer devant très peu de monde. Tous les joueurs et joueuses sont ravis de retrouver la compétition. Et on peut féliciter bien sûr toute l'organisation qui met en œuvre l'événement pour que Roland se joue en 2020. Donc je crois que tout le monde est impatient de revoir un peu tous ces champions ici à Roland-Garros.
Et hier, tirage au sort du premier tour et l'affiche, ce sera Stan Wawrinka face à Andy Murray, le Suisse, ancien vainqueur de Roland-Garros contre le Britannique ex-numéro 1 mondial.
Le foot, un petit tour et puis s'en va. Reims a fait son retour en Coupe d'Europe. Il quitte déjà la scène européenne.
Les Champenois éliminés au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa chez les Hongrois de Fervar. Défaite au tir au but. L'autre résultat du matin, c'est le Bayern Munich qui bat le FC Séville 2-1 après prolongation et remporte la Super Coupe d'Europe. C'est l'affrontement chaque année entre les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.
Noël Le Graët sur Europe 1 ce week-end. Entretien prévu avec le président de la Fédération française. Ce sera dimanche soir.
Face aux auditeurs, 20h-21h avec Lionel Rousseau. Et cette annonce, un match Algérie-France en Algérie. Ce n'est pas pour tout de suite. Noël Le Graët avait fait de l'organisation de cette rencontre très symbolique un objectif de son mandat. Ça ne se fera pas tout de suite. Il s'en explique en exclusivité sur Europe 1.
J'ai toujours souhaité aller à Alger. On n'a jamais réussi à trouver les accords. Le président de la fédération algérienne le souhaitait. Je ne suis pas certain que l'État algérien le souhaitait vraiment. Je ne sais pas sur la durée de mon mandat si j'aurai le temps.
Entretien avec Noël Le Graët dimanche soir, donc sur Europe 1, 20h-21h. Le handball est le très gros coup des joueurs de Nantes au premier tour de la Ligue des Champions. Ils ont gagné hier soir à Kiel, une place très forte du puissant handball allemand. Score final pour les Nantais, 35-27.
L'histoire du jour.
Un monument du cyclisme mondial s'ouvre enfin aux dames, le premier Paris-Roubaix féminin est prévu le 25 octobre. Le parcours a été dévoilé hier et le tracé est corsé. Passage notamment par le carrefour de l'Arbre, l'un des secteurs pavés parmi les plus difficiles.
Et voilà, les courses cyclistes qui s'ouvrent aux femmes, ça répondra aussi
au Tour de France féminin, c'est pour bientôt aussi.
Voilà, aux critiques qui ont été émises ces derniers jours sur le Tour de France. Il est 6h13 sur Europe 1. Merci Jérôme Lacroix.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1.
C'est l'heure de découvrir qui est l'invité inattendu du 5-7. Les fans de Mylène Farmer sont en émoi aujourd'hui. Un documentaire inédit consacré à la chanteuse sort sur la plateforme Amazon Prime Video. Alors, nous avons invité un fan, mais que vous connaissez comme ancien ministre.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Urvoas.
Bonjour Jean-Jacques Urvoas, bienvenue sur Europe 1, ancien ministre de la Justice, c'était sous le quinquennat Hollande. Votre vie, c'est aussi votre passion pour Mylène Farmer et vous allez nous raconter, à tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
L'invité inattendu du 5-7 est donc l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qu'on découvre. Fan de Mylène Farmer ce matin, c'est la plateforme Amazon Prime qui dévoile aujourd'hui un documentaire qui est dédié à l'artiste. Jean-Jacques Urvoas, un documentaire sur Mylène Farmer, on va la voir, on va l'entendre. C'est toujours un événement dès que quelque chose concerne cette chanteuse.
Ah, c'est un événement et d'ailleurs on se précipite. Cette semaine c'était son dernier single avec un clip vidéo avec, là maintenant c'est le documentaire. En réalité on attend surtout le prochain album.
Vous êtes un fan du genre à tout suivre, à ne rien manquer, à vous jeter sur la moindre chose qui sort sur elle ?
Je pourrais, mais j'essaie justement de me soigner. Donc je limite mes efforts à la curiosité. Je l'ai vu plusieurs fois en concert, je crois que j'ai vu 3 concerts. J'ai évidemment acheté la totalité de ses disques. Mais quand il y a des rééditions de luxe, tout ça, là, honnêtement, je fais le marque-le-pas. La découverte et la pratique n'amènent pas une intensité absolue.
Elle est toujours très discrète, Mylène Farmer. C'est rare qu'on la voit comme ça dans un documentaire, par exemple.
Ah bah attendez, on va voir le documentaire. On verra si effectivement elle gère cette discrétion ou si au contraire, elle franchit un cap. De toute façon, c'est ceux qui l'apprécient prendront ça pour ce que c'est-à-dire un cadeau.
Dès qu'elle sort quelque chose, c'est un cadeau.
Ah, c'est un cadeau rémunéré, hein, mais ça reste quand même un geste pour ceux qui l'aiment bien, et visiblement, nous sommes quelques-uns.
Ça remonte à quand, cette passion pour Mylène Farmer, Jean-Jacques Urvoas ?
On n'arrive pas à qualifier une passion. Une passion, c'est une évidence. Un jour, vous la constatez, et vous avez oublié qu'il n'y en avait pas avant. Donc, ça remonte d'Espagne, ses premiers disques sans doute, ainsi qu'elle soit douce, ou les premiers clips vidéo où on avait l'impression de voir du Barry Lyndon.
Ces clips, ces concerts, c'est toujours le show, la mise en scène, c'est ça que vous appréciez ?
Écoutez, moi ce que je trouve assez fascinant chez cette fille, c'est la contradiction manifeste entre cette volonté qu'elle a de contrôler tout, la musique auquel elle contribue, la chorégraphie auquel elle est attentive, et puis l'image de fragilité ou de tristesse qu'elle passe son temps à véhiculer. C'est-à-dire, il y a la force dans le parcours qu'elle construit et l'image friable qu'elle projette. Et donc moi, j'ai toujours été très troublé par cette contradiction parce que je pense que la force est en réalité plus forte, plus importante chez elle que la faiblesse.
Oui, elle parvient à chaque fois à remplir des salles immenses sans jamais donner une seule interview dans les médias, ce qui est quand même assez fascinant.
Mais je crois même que les téléchargements sont à peine divulgués, qu'ils franchissent des records. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de phénomène que je ne connais pas chez beaucoup d'autres, peut-être Johnny Hallyday à son époque, mais elle, en tout cas, elle entretient ça justement par un sentiment d'absence permanent.
Et une communauté de fans comme vous qui la suivait quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, je ne dirais pas ça. Il y a des albums qui n'ont pas suscité chez moi l'enthousiasme. Ah. Et il y en a qu'effectivement, j'ai tendance à écouter en boucle. Il y en a que je mets en sonnerie de portable. Il y a ceux que je range au fond de ma discothèque en ne les écoutant que peu.
Alors, qu'est-ce que vous avez comme sonnerie de portable, Jean-Jacques Urvoas ?
En ce moment, j'ai la chanson que je préfère en réalité parce que il y a longtemps que je ne l'avais pas entendue. Et puis justement, comme il y a eu L'âme dans l'eau, là, sorti cette semaine, j'ai repris moi Amsterdam parce que je trouve que c'est le sommet de ce qu'elle avait fait.
Vous avez des sonneries spéciales quand quelqu'un vous appelle ? Je ne sais pas si François Hollande vous appelle, c'est Mylène Farmer ?
Non, j'ai eu ça. Ah. Mais
quand vous étiez ministre ?
À des banalités. Oui.
Ah, c'était oui, quelle chanson ?
Non, ça je ne vous dirai pas. Et je vous dirai pas parce que
c'est fini.
Le principe, c'est qu'on met ça en sourdine, donc de façon à ce que la personne avec qui vous êtes, c'est si vous êtes Place Vendôme et que tout d'un coup on entend du Mylène Farmer, ça risque de projeter un regard étonnant sur le ministre.
Y compris ministre, vous étiez allé la voir en concert ? Vous aviez le temps ?
Non, j'avais pas eu le temps. Puis je crois surtout qu'elle faisait pas de tournée au moment où j'y étais. Quand j'étais président de la commission des lois, j'y avais été, quand elle était à Bercy. Mais pas comme ministre, mais ça ne m'aurait pas gêné très honnêtement d'y aller.
Voilà, ce documentaire en 3 épisodes, donc il sort sur la plateforme Amazon Prime aujourd'hui, qui porte sur le dernier spectacle de Mylène Farmer. Merci beaucoup Jean-Jacques Urvoas d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu, et on apprend donc que quand vous étiez ministre et quand François Hollande vous appelait, c'était ouais. Mylène Farmer qui sonnait sur
ça.
Votre portable.
Bonne journée à vous.
Amsterdam, dans 1990, Mylène Farmer. La chanson préférée donc de l'ancien ministre Jean-Jacques Urvoas, qui a joué le jeu de l'invité inattendu ce matin. Il est 6h22.
Europe 1, Sébastien Krebs.
L'essentiel à retenir dans l'actualité de ce vendredi matin, c'est le ton qui monte à Marseille contre les restrictions sanitaires. Une manifestation des cafetiers, des restaurateurs est prévue ce matin devant le tribunal de commerce. Le président de la région sud, Renaud Muselier, va déposer un recours contre ces mesures. Plus de 16 000 nouveaux cas de Covid enregistrés en France au cours des dernières 24 heures. C'est un record. Le taux de positivité des tests continue lui aussi d'augmenter. Dans les hôpitaux parisiens, la PHP déprogramme 20% des opérations chirurgicales non essentielles. Et puis, à Washington, Donald Trump, hué par la foule alors qu'il se recueillait devant le cercueil de la juge Ruth Bader Ginsburg. Elle aura droit à un hommage national au Capitole aujourd'hui.
Europe 1.
Le 5-7 continue avec vous, Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Sébastien.
On regarde notre planète depuis votre exploitation en Haute-Loire. Et ce matin, une alerte qui concerne nos ustensiles de cuisine. Nos poêles anti-adhésives contiendraient des matières dangereuses. Vous allez nous expliquer dans quelques secondes. À tout de suite, 6h23.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
À 6h25, on écoute Le Monde changer et on regarde notre planète avec vous, Fanny Agostini. Alors vous nous dites ce matin qu'en cuisine, utiliser une poêle anti-adhésive peut faire du tort à la planète et notamment aux mouettes.
Étonnant, n'est-ce pas ? Poêle anti-adhésive, mais aussi les textiles, vêtements, chaussures, tissus, tapis, moquettes, les emballages en papier et carton, les mousses anti-incendie, les isolants de fil électrique, les cires à parquet, certains vernis et peintures. Tout cela peut contenir des composés perfluorés que l'on appelle aussi PFC. Ils sont une large famille de substances chimiques fabriquées depuis les années 50 et ils ont le défaut d'être extrêmement volatiles. Ils vont s'immiscer dans notre environnement, se retrouvant autant dans le cycle de l'eau que dans les airs, et ils vont voyager extrêmement loin, loin de là où ils ont été émis, par-delà le cercle polaire, et vont intoxiquer notamment les mouettes.
Pourquoi vous parlez des mouettes en particulier ?
Eh bien parce qu'au sein de la chaîne alimentaire, la mouette est un prédateur. Elle va manger le poisson qui lui-même aura auparavant ingéré ses composés perfluorés. À noter que ces substances sont caractérisées par leur permanence dans l'environnement, c'est-à-dire que lorsqu'elles s'y trouvent, elles peuvent y rester des années. C'est pourquoi étudier les mouettes est pertinent, car ce sont des animaux qui vivent jusqu'à 20 ans, ce qui permet aux scientifiques qui les observent de comprendre l'effet cumulatif de ces composés toxiques dans leurs organismes et notamment dans leur sang.
Quels sont les effets de ces composés perfluorés, de ces PFC sur les mouettes ?
Eh bien, une équipe de chercheurs français et norvégiens ont découvert, en prélevant du sang de mouette sur une colonie de l'archipel du Svalbard, qu'il y avait un lien entre le taux d'éclosion des œufs et les parents intoxiqués. Plus les mouettes sont touchées, moins il y a de descendance. L'étude est alors allée plus loin en observant les spermatozoïdes des mâles, et là, ça ne fait aucun doute, 70% de ces spermatozoïdes étaient anormaux. Il y a donc un rapport manifestement bien identifié entre l'usage de ces produits et la fertilité des mouettes. Les composés perfluorés sont bel et bien des perturbateurs endocriniens qui affectent certes les mouettes, mais quid des humains ? En juin 2019, les ministres européens de l'environnement ont appelé la Commission européenne à développer une action pour éliminer l'utilisation des PFC. Interdiction toutefois très complexe à imaginer compte tenu des innombrables applications industrielles qui existent aujourd'hui et se retrouvent dans notre quotidien aussi banalement que lorsque nous utilisons une poêle de cuisson ou un spray pour imperméabiliser nos chaussures quand il pleut.
On va y être attentif désormais et on va retenir ce terme un peu compliqué mais qui est important. Donc ces composés perfluorés qui peuvent rester dans la nature pendant des années. Merci Fanny Agostini. Bon week-end, notre planète tous les jours à 6h25 sur Europe 1. Laurent Cabrol.
Eh bien, nous allons parler d'un température qui sont vraiment à la baisse maintenant. Voici les températures maximales aujourd'hui. 12 à Langres, 13 à Épinal, 14 à Dijon et Paris, comme à Lille. 15 degrés à Caen, à Toulouse et Rennes, 16 à Nantes, 17 à Bordeaux, 18 à Lyon. Il faut aller à Bastia pour avoir des températures raisonnables autour de 24 degrés. Deuxième point important de la journée, les pluies. Elles sont très violentes dans le sud-ouest. Elles seront continues sur les Alpes aussi, sur la Corse, sur la Picardie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, avec de la neige en montagne à partir de 1500 mètres dans les Alpes et les Pyrénées, s'il vous plaît. Et puis une vigilance orange sur les Pyrénées-Atlantiques en raison des précipitations. Qu'y a-t-il encore ? Allez, du mieux cet après-midi sur la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. En région parisienne, ce sera comme hier, avec quelques averses, même parfois assez violentes. Et puis le vent, toujours lui, Mistral et Tramontane, 100 à 120 km/h.
Alors ça fait pas beaucoup de bonnes nouvelles, tout ça. On a vraiment changé de saison, ça y est.
Ouais, ouais.
Merci Laura, à tout à l'heure.
Europe Matin. Le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci d'être fidèle à Europe 1 et au 5-7 pour vous réveiller chaque matin. Nous sommes le vendredi 25 septembre. Voici toute l'actualité de ce vendredi matin. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal, il est 6h30.
J'assume. Quand il y a des mesures ainsi importantes, impopulaires, il vaut mieux que ce soit l'État qui les assume.
Il se pose en patron du dispositif sanitaire. Jean Castex réaffirme la pertinence des mesures décidées pour Aix et Marseille. Une entreprise de 13 000 salariés qui leur demande un effort de 100 millions d'euros au total pour assurer sa survie. Nous verrons comment Valeo veut assurer la compétitivité de ses sites français. Et puis Roland Garros, jauge encore réduite, 1000 spectateurs par jour, 3% de la moyenne d'habitude, et les joueurs soumis à un protocole draconien.
La crise Covid met-elle au second plan la crise climatique après cet été où la banquise a fondu comme jamais et où les incendies ont ravagé plusieurs régions du monde. La jeunesse ne lâche pas. Nouvelle journée mondiale pour le climat. À 6h40, je reçois Camille Etienne. Elle a 22 ans. Elle milite aux côtés de Greta Thunberg et elle incarne en France cette génération qui rêve d'un autre monde. À suivre aussi votre revue de presse internationale et l'innovation du jour d'Anissé Mbida. Bienvenue, bon réveil. 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Peu importe l'impopularité de ce qu'il avait à dire, Jean Castex a défendu à 100% les mesures décidées par son gouvernement et qui font bondir les élus de Marseille et les restaurateurs de cette ville qui devront fermer dès ce soir pour 2 semaines. Un premier grand oral du Premier ministre, moins de 3 mois après son arrivée à Matignon dans l'émission Vous avez la parole sur France 2. Jean-Rémy Baudeau, on peut dire qu'il est resté ferme sur sa ligne.
Oui, face à la grogne des élus, notamment à Marseille, le Premier ministre a tenté de justifier les décisions prises.
On y va par étapes en fonction de l'évolution de l'épidémie, qui n'est pas la même dans tous les territoires.
Sur la forme, Jean Castex avait fait du dialogue avec les territoires sa marque de fabrique, malgré les critiques sur sa gestion du cas marseillais. Il estime avoir maintenu le dialogue.
J'ai téléphoné ce matin au président de région, j'ai téléphoné ce matin à madame la maire de Marseille. Elle n'était pas contente, mais je lui ai expliqué le sens de la décision de l'État.
Un coup de téléphone, ça n'est pas une concertation, avait fustigé le président de la région Sud, Renaud Muselier. Mais Matignon promet que la méthode Castex n'a pas changé. Si l'État reprend la main, c'est que les mesures sont justement très contraignantes.
J'assume. Quand il y a des mesures ainsi importantes, impopulaires, il vaut mieux que ce soit l'État qui les assume. Mais je pense qu'il aurait été, et vous voyez d'ailleurs leur réaction, très difficile pour eux d'assumer ces mesures nécessaires.
Castex assume, mais sur le terrain, ces fermetures restent vécues comme un passage en force.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Au-delà du cas d'Aix-Marseille et de la Guadeloupe qui sont en zone d'alerte maximale, le tour de vis annoncé mercredi concerne aussi 11 métropoles, les zones d'alerte renforcées.
Paris, Lyon, Bordeaux, Nice ou encore Lille. Lille où l'on prévoit déjà une manifestation mardi soir à 22h30. Alors pourquoi cet horaire ? Eh bien car ce sera une demi-heure après l'heure limite de fermeture des bars dans ces zones, une mesure qui s'applique à partir de ce lundi et qui est très mal vécue par les professionnels. Lionel Gougelot.
Une fermeture anticipée à 22h, c'est comme un coup de grâce pour Guillaume Delbar qui dirige l'un des bars de nuit les plus courus du Vieux-Lille.
J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires depuis le 2 juin. Clairement, là on est parti pour faire du 95% moins, donc aujourd'hui c'est pas possible, je peux pas garder tout mon personnel, je peux pas rester ouvert.
Une décision qui, selon lui, stigmatise injustement toute une profession.
On est considéré comme des nids à virus, alors que c'est absolument pas juste. On a mis toutes les distanciations sociales, le gel hydroalcoolique dans les toilettes, plus de sèche-main, on fait respecter l'ordre dans l'établissement, on accueille nos clients à la porte, on place nos clients aux tables. On ne peut pas faire mieux. Aujourd'hui, on paye les pots cassés pour les établissements qui n'ont pas fait correctement leur travail, quoi, c'est tout.
Victime collatérale de cette fermeture anticipée, Alban, employé comme extra dans un de ses bars.
Moi, à partir de 22h, normalement, je suis censée bosser jusqu'à la fermeture. Donc si ça ferme à 22h, je ne travaille plus et je n'ai plus d'emploi. Je me retrouve au chômage.
Mesure d'autant plus stupide, dit Jefferson, un client, qu'à la fermeture de ces bars, beaucoup de jeunes se retrouveront chez eux, et cette fois sans précaution.
Et ça restera le même problème, parce qu'une fois l'alcool dans le sang, c'est des câlins, c'est des bisous, c'est pas de masque, c'est aucune distanciation, parce qu'on à la maison, que c'est la fête, quoi.
Alors on ira bien manifester la semaine prochaine devant la préfecture, confie un patron de bar, mais sans illusion, puisque le mal est fait. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et de nombreuses entreprises tentent de préserver l'emploi tout en réduisant leurs coûts. Difficile ligne de crête quand la crise les a ébranlés. On observe une multiplication des négociations ces derniers mois, en particulier dans l'aéronautique et dans l'automobile.
Dernier exemple en date, l'équipementier Valeo, 13 500 salariés en France, qui demande des concessions à ses syndicats. Aurélien Fleureau.
Gel des salaires, suspension de l'intéressement, réduction des primes d'ancienneté, mais aussi mesures sur l'épargne salariale et flexibilité dans l'organisation du travail. L'effort demandé aux salariés de Valeo est substantiel, mais la direction a chiffré à 100 millions d'euros les économies nécessaires pour assurer la compétitivité de ses sites en France. Un accord sur l'activité partielle de longue durée est aussi sur la table. Les syndicats ont jusqu'à mardi prochain pour répondre. La CGT a d'ores et déjà dit non, craignant des pertes définitives et non pas temporaires. Mais la CFE-CGC numéro 1 chez Valeo, ainsi que FO et la CFDT, pourraient se satisfaire de l'engagement pris par la direction. Pas de licenciement collectif et aucune fermeture de site lors des 24 prochains mois. Une garantie loin d'être anodine, avec une perte nette d'€1,2 milliard, un chiffre d'affaires en baisse de 28% au premier semestre. Valeo a déjà supprimé 12 000 postes dans le monde.
C'était hier soir aussi l'annonce par le Premier ministre d'une nouvelle réduction de la jauge à Roland-Garros. C'est déjà la troisième. Il y aura finalement 1 000 spectateurs par jour, soit 15 000 au total pendant le tournoi, alors qu'ils sont d'habitude 500 000 sur la durée de la quinzaine.
Un Roland-Garros qui commence dimanche avec un protocole sanitaire drastique que doivent respecter tous les participants. Corinne Boulou.
Les joueurs se font tester dans des salles spécialement aménagées dans les deux hôtels qui leur sont réservés. La cellule médicale de Roland-Garros, dirigée par le docteur Bernard Montalvan, a dû d'ailleurs doubler ses effectifs pour engager ce protocole.
Ils arrivent, ils sont testés, ils restent dans leur chambre et après ils attendent le résultat de leur test pour pouvoir commencer à s'entraîner. On fait deux tests. S'il y a un joueur qui sort positif, on reprend son échantillon, on le reteste sur une autre machine, ce qui demande 5 heures de plus, pour donner la positivité du test. C'est pour ça que nous, on a tout acté avant, tout écrit avant, pour que les joueurs savent bien où mettre les pieds, parce qu'on savait bien que ça allait poser des problèmes.
Et avec l'arrivée de l'automne, il va falloir aussi distinguer le simple rhume d'une éventuelle contamination.
C'est hyper compliqué pour nous, donc probablement on va faire plus de PCR.
Et pour le moment, les tests sont renouvelés tous les 5 jours, et le protocole n'autorise aucune sortie, aucune promenade, sous peine d'exclusion.
Et les stars du circuit mondial, comme nos Françaises et nos Français, connaîtront leurs premiers adversaires lors du tirage au sort qui aura lieu aujourd'hui à huis clos à partir de 18h.
Roland Garros, ouais, qu'on va suivre hein, sur Europe 1, radio officielle du tournoi.
Absolument.
Il est 6h36, c'était le journal de François Geffrier.
Europe 1.
Dans quelques secondes, sur Europe 1, l'invité du 5-7 est Camille Etienne. Elle a 22 ans. Elle milite avec les jeunes pour le climat aux côtés de Greta Thunberg, notamment. Elle incarne en France cette jeunesse mobilisée partout dans le monde. C'est une nouvelle journée pour le climat qui débute aujourd'hui. Elle va nous dire ce que cette génération veut faire bouger après cette crise Covid. A tout de suite sur Europe 1. On écoute le monde changer.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1 et j'accueille l'invité du 5-7 ce matin. Bonjour Camille Etienne.
Bonjour.
Vous êtes militante, porte-parole du mouvement On est prêt, militante pour le climat. Vous avez 22 ans. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale de mobilisation pour le climat à l'appel de la jeunesse de ce mouvement mondial autour notamment de Greta Thunberg. Pourquoi relancer ces manifestations de la jeunesse maintenant en pleine crise sanitaire ?
C'est important justement, je pense, de se réinventer aussi et de voir qu'il y a d'autres manières de se mobiliser que de faire des marches. Évidemment que c'est plus possible aujourd'hui dans ce contexte Covid, donc que ce climat en France s'est réinventé en faisant par exemple des camps climat avec des formations, des conférences, etc. Et au-delà de ça, c'est un moment important parce que on a réussi quelque part à mettre sur pause ce vieux monde pour une urgence sanitaire. Et c'était évidemment important. Maintenant, nous, on aimerait montrer aussi qu'il y a une urgence qui est là, qui est presque encore plus grande, plus insigneuse, qui est une urgence écologique et que donc, elle aussi, il faut qu'on la prenne au sérieux.
Vous dites qu'on a réussi à mettre ce monde sur pause avec beaucoup de dégâts. On l'entend tous les jours.
Bien évidemment, avec des dégâts, mais est-ce qu'on a fait le choix ? Quelque part, c'était pour sauver des vies aussi. Oui. Et là, par exemple, il y a à peu près 30 000 personnes qui sont mortes aujourd'hui du Covid en France. Donc, c'est dramatique et j'en suis la première, désolée. Mais il y a 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air, rien qu'en France. Donc, en fait, l'urgence, elle est largement à la hauteur et on attend simplement que les décisions qui soient prises soient, elles aussi, ambitieuses.
Vous avez votre message, vous l'avez publié dans une vidéo au moment du déconfinement, une vidéo qui était titrée « Réveillez-vous ». Avec le Covid, vous avez le sentiment qu'on a mis de côté l'environnement et les enjeux climatiques ?
On les a mis de côté d'une certaine manière quand on voit que des entreprises, on a vu le MEDEF qui avait quand même fait une lettre en interne pour demander qu'un moratoire sur les lois environnementales. Aux États-Unis, c'était la même chose. En fait, les entreprises, les lobbies du plastique, par exemple, ont poussé pour que des lois ambitieuses soient retardées sous couvert d'une urgence, elle, sanitaire et économique. Alors qu'on voit bien que c'est des choses extrêmement liées et qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les pandémies sont amenées à arriver de plus en plus souvent.
Mais il se passe des choses quand même. Regardez le plan de relance, il y a une grosse enveloppe va être consacrée à la rénovation thermique des bâtiments. Il se passe des choses sur l'environnement quand même en France.
Alors,
notamment.
Il se passe des choses, mais pas assez vite. Sur le plan de relance, c'est une partie seulement. Alors que pour nous, on est persuadés, en tout cas pour moi, on est prêts que ça ne doit pas être simplement une partie. L'écologie, c'est partie intégrante de la vie, en fait. C'est une société entière qui doit advenir. Et donc, on ne peut pas considérer ça comme simplement un bout d'un problème. On a aussi la Convention citoyenne pour le climat qui est en train de ne pas être respectée entièrement par Emmanuel Macron. Donc, on voit bien que, oui, des choses sont mises en place, mais il faut que nous, les citoyens, on soit ce contre-pouvoir qui soit constamment méfiant du fait que les entreprises et l'État ne soient pas toujours ambitieux à la hauteur de l'urgence.
Il y a une bascule dans l'opinion en faveur de l'écologie, une bascule même qui s'est manifestée de façon électorale au moment des municipales. Sûr. Des maires écologistes ont été élus. Quel regard vous portez sur eux aujourd'hui ? Ils ont fait quelques déclarations qu'on peut juger malheureuses quand même. ces dernières semaines?
Écoutez, je pense que pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce que quelques personnes, politiciens pensent sur Twitter, mais ce que pensent vraiment les gens. Et les gens derrière sont là, étaient ravis. Par exemple, à Grenoble, Éric Piolle a été réélu largement après un premier mandat avec des mesures hyper ambitieuses. Par exemple, arrêter la publicité, faire des fermes urbaines pour donner des produits bio aux écoles et aux EHPAD. On voit bien qu'au-delà de ça, les gens sont là, au-delà de quelques déclarations sur Twitter. Ce qui me fait de la peine, même, je vais vous
mais,
dire.
Mais par exemple, le sapin de Noël à Bordeaux, est-ce que sur une mesure comme celle-ci, est-ce que ça n'est pas contre-productif?
Pas du tout, parce que en fait, l'opinion médiatique s'est complètement centralisée sur ces quelques mesures pour essayer de décrédibiliser toutes les mesures ambitieuses qui ont été prises derrière, alors que d'un côté, on a la même semaine une urgence écologique, rien que pour parler de la même semaine. On a quand même le rapport WWF qui sort en disant qu'on a perdu 68% des animaux vertébrés depuis les années 70. Un des mois de septembre le plus chaud de l'histoire de France, on a une urgence qui est là. Et de l'autre, on a des vraies mesures qui ont été prises par ces maires écolos, qui sont extrêmement ambitieuses et qui sont soutenues, qui sont à la fois de justice sociale et climatique. Et on voit que certains préfèrent se focaliser sur quelques mesures complètement... anecdotique. Je pense que là,
c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que ça n'est pas contre-productif quand on met une mesure comme ça? Forcément, tout le monde va s'en saisir. Il y a un autre sujet qui fait débat, Camille Etienne, c'est la 5G. En ce moment, vous faites partie d'une génération qui est rivée sur les réseaux, qui est rivée sur les téléphones portables. On imagine que les jeunes, ils vont se jeter sur la 5G.
Bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande un moratoire. C'est-à-dire qu'on fait partie, on est prêt, on a lancé pétition avec eux, mais on soutient un procès qui a été intenté contre les quatre plus gros opérateurs pour demander du temps. En fait, c'est une des demandes de la Convention citoyenne pour le climat, justement, d'avoir un moratoire, c'est-à-dire de repousser l'installation tant qu'on n'est pas certain qu'il n'y a pas des études pour montrer qu'il n'y a pas d'impact à la fois sur la santé et sur l'environnement.
Mais les jeunes, ils n'ont pas envie, justement, d'être encore plus facilement connectés?
Pas du tout, je pense que c'est une fausse idée de voir la jeunesse comme ça. La jeunesse, elle a justement envie qu'on la prenne au sérieux, quelque part, qu'on la prenne pour ce qu'elle est et pas simplement des enfants. Et donc je pense qu'on a envie, nous aussi, de savoir quel impact ça va avoir si on déploie cette technologie, quel impact ça va avoir sur notre santé et puis sur notre avenir. C'est vraiment important pour nous qu'on nous donne des réponses.
Une dernière question très rapidement, Camille Etienne. Vous étiez aux universités d'été du MENEF il y a quelques semaines. Vous êtes allé dire aux chefs d'entreprise qu'il fallait travailler moins. Bon, c'est osé, c'est courageux. Vous avez essuyé quelques ricanements dans la salle. Est-ce que ça illustre pas une sorte de choc des générations, un choc des cultures?
Vous savez, je pense que là, Schopenhauer avait raison en disant que toute vérité au début est ignorée, puis moquée. Et là, on en est là finalement avec le MEDEF et avec finalement aussi ce qui se passe pour les maires écolos, pour ce bashing qui est en train de se faire. Puis elle est combattue violemment. Donc j'espère qu'on passera vite cette phase pour ensuite être acceptée comme ayant toujours été une vérité.
Merci Camille Etienne d'avoir été l'invitée du 5-7 ce matin, porte-parole du mouvement On est prêt, militante pour le climat. Vous êtes aussi étudiante à Sciences Po. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous.
Bon week-end à vous.
Europe 1.
Il est 6h46, dans un instant, l'innovation du jour d'Anis Mbida. A tout de suite.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 6h48, nouveau record, 16 000 contaminations au coronavirus ces dernières 24 heures. Le taux de positivité des tests augmente lui aussi à 6,5%. La région Sud va déposer aujourd'hui un référé devant le tribunal administratif contre la mesure de fermeture des bars et des restaurants décidée pour Aix-Marseille. Et puis le mythique carnaval de Rio, reporté, décision annoncée cette nuit en raison de la pandémie. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien.
On écoute le monde changer, on regarde vers le futur. Avec vous, votre innovation du jour pourrait accélérer la transition vers les véhicules électriques. Imaginons, on conduirait sur des routes qui rechargeraient les voitures automatiquement pendant qu'elles roulent.
Oui, des routes électriques, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on fait des expérimentations ici et là. Mais cette fois, ça y est, une grande ville vient de franchir le pas. Il s'agit de Tel Aviv en Israël, qui se prépare à construire le premier réseau public de routes électriques. Et l'objectif, eh bien, c'est de supprimer la principale angoisse quand on possède une voiture électrique, hein, c'est de trouver une station de recharge. Là, vous l'avez dit, hein, ça sera la route elle-même qui va recharger la voiture pendant qu'elle roule.
Comment ça marche? Il y aura des rails sur la route?
Non. C'est le même principe que quand on recharge un téléphone sans fil ou quand on recharge sa brosse à dents électrique. C'est ce qu'on appelle la recharge par induction. Il y a des bobines électrifiées dans le dans le bitume et un module sous la voiture qui récupère l'énergie, tout ça sans le moindre contact. Donc on aura vraiment l'impression de rouler sur une route parfaitement normale. C'est une technologie de la start-up Electrion et elle fait partie d'un grand plan de réduction des émissions de CO2 et de la pollution à Tel Aviv. Et dans un premier temps, seuls les bus pourront activer ce système. Ensuite, il sera étendu aux fourgonnettes de livraison, puis enfin aux voitures des particuliers.
Bon, du coup, il faudra une voiture spéciale, compatible avec cette technologie pour que ça recharge par la route comme ça ?
Non, pas besoin. Mais pour que ça marche, il faudra d'abord installer un système, un adaptateur sous sa voiture. Mais au moins, on n'aura plus besoin de s'arrêter pour la recharger. Mais non, je parie qu'il y a beaucoup de villes qui vont suivre de près cette initiative. D'abord parce que c'est une vraie alternative au déploiement de bornes de recharge. Et surtout, parce que ça pourrait inciter beaucoup plus de monde à passer à l'électrique.
Bon, c'est formidable, mais comme on adore les travaux, j'imagine même pas quand il fallait retourner toutes les routes de nos grandes villes pour y mettre ces matériels électriques. Mais bon, c'est l'avenir, il faudra le faire de façon progressive, j'imagine. Merci Anissa Mbida, à lundi. 6h51, nous ouvrons ensemble votre revue de presse internationale, l'actualité telle qu'elle est vécue ailleurs sur la planète. Nous allons d'abord au Mexique. Bonjour Laurence Cuvillier.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ?
Eh bien, au Mexique, c'est l'hydre de la violence qui refait surface. Occulté depuis le début de l'année par la crise sanitaire, le narcotrafic et sa moisson de victimes reprennent peu à peu leur place à la une des journaux. L'édition mexicaine de Forbes dresse un constat alarmant. De janvier à juillet 2020, alors que la pandémie réduisait pourtant les activités, il y a eu une moyenne de 110 assassinats par jour, les pires chiffres jamais enregistrés. Et selon une enquête du site d'information Animal Politico, le cartel le plus puissant du pays, Jalisco Nueva Generación, a désormais étendu son empire sur 84% du territoire national. Et pour comble, le quotidien régional El Heraldo de Saltillo publie une étude détaillée qui met en évidence de graves inconsistances dans les chiffres officiels, laissant penser qu'il serait maquillé pour atténuer le choc dans l'opinion publique.
Laurence Cuvillier au Mexique pour Europe 1. Deuxième étape aujourd'hui, en Inde. Bonjour Combastin.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui intéresse la presse à New Delhi ?
Ici, c'est le premier mouvement social depuis le début de la pandémie qui concentre l'attention des médias. Fini la distanciation physique, comme l'explique Time of India, les fermiers sont vent debout contre un projet de libéralisation des prix de vente des fruits et légumes. The Indian Express raconte que des cohortes d'agriculteurs marchent vers la capitale New Delhi et ont été chassés au canon à eau. Cela n'a pas suffi à briser le mouvement. Selon NDTV, les paysans du Punjab prévoient 3 jours de manifestations avec blocage des lignes de train. Le gouvernement assure que ces réformes vont supprimer des intermédiaires et augmenter les profits dans le secteur, mais l'opposition compte, elle, tourner cette révolte à son avantage. Selon Hindustan Times, le parti du Congrès prévoit de mener campagne 2 mois aux côtés des fermiers. Malgré l'explosion des cas de coronavirus, la politique fait son grand retour en Inde.
Comme Bastin, correspondant d'Europe 1 à New Delhi. Et nous terminons ce tour du monde un peu plus proche de nous, à Londres. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour Sébastien.
Que lit-on à la une en Grande-Bretagne ?
Eh bien, dans la presse britannique, c'est le tollé autour des déclarations de Meghan et Harry sur la présidentielle américaine. Dans une vidéo, le couple appelle les Américains à aller voter et à rejeter les discours de haine. Donald Trump n'est pas cité, mais c'est bien lui qui est visé. En se mêlant de politique, Harry enfreint la sacro-sainte règle de neutralité à laquelle est soumise la monarchie outre-Manche et embarrasse au passage sa grand-mère, la reine. Les journaux conservateurs et proches de la royauté sont les plus sévères. Le Daily Telegraph s'inquiète du coup porté à la réputation de l'institution monarchique et à la relation diplomatique entre les États-Unis et le Royaume. L'hebdomadaire The Spectator titre « L'avis de Meghan et Harry sur Trump, tout le monde s'en fiche ». Dans l'édito du tabloïd Daily Mail, l'influent présentateur anglais Piers Morgan réclame que la reine leur retire tous leurs titres.
Anaïs Cordoba, correspondante Europe 1 à Londres. Nous étions au Mexique, en Inde, en Grande-Bretagne. C'est votre fenêtre sur le monde chaque matin. La revue de presse internationale des correspondants d'Europe 1. Il est 6h54. Europe 1. La météo de Laurent Cabrol à suivre et le journal d'Hélène Zellani. Mathieu Béliard s'installe pour le 7-9. A tout de suite sur Europe 1.